There are 274 million French speakers in the world. For France's Emmanuel Macron, speaking French opens doors in an increasingly globalized world. But what many don't realize is that there are more French speakers in Africa than Europe. In 2014, there were 150 million francophones in Africa, but less than 100 million in Europe. There's another 20 million from the Americas and the Caribbean, followed by 2.5 million in the Middle East and Asia. Finally, around 1 million are living in the South Pacific. By 2050, Africa could account for 85% of the francophone world. But according to the International Organization for la Francophonie, those numbers could change depending on how the organization's 54 member states choose to reinforce the language's teaching. With a potential for 700 million speakers, French could become the most widely spoken language in the world. But for now, it ranks fifth worldwide, behind Arabic, English, Spanish, and Mandarin, with 848 million speakers.
Want to learn French? Parlez-vous français? Join us every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. on CIUT 89.5 FM or on the internet at CIUT.fm or live from our studio. Popo Richaud targets student listeners who want to explore and travel through the Francophone world. Each Sunday, our show includes French lessons, news, reports from across the continent, as well as international news flash about Africa, Europe, the Caribbean, and the Indian Ocean Islands, and features music charts and social issues around the world. Lively, upbeat, provocative, and on target. Popori Show, every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. in partnership with Radio France International, the French Studies Department, University of Toronto. Our email address, pot.pourri@simpatico.ca.
Nous sommes tous différents. Nous sommes de générations différentes, de cultures différentes et de milieux sociaux différents. Certains d'entre nous occupent des postes d'influence et certains d'entre nous passent leur vie à servir les autres. Quelques-uns d'entre nous aspirent à réussir dans la vie et d'autres à réussir sa vie. Nous avons tous notre unicité, notre particularité, notre personnalité. Nous ne vivons pas les mêmes histoires et ne menons pas tous les mêmes combats. Nous pouvons rester dans l'ombre et subir la vie. Mais nous pouvons aussi puiser en nous la force de combattre pour faire changer les choses.
RFI, la radio d'actualité internationale du groupe France Média Monde, diffusée en français et en 13 autres langues. 480 journalistes à Paris, 42 nationalités, 400 correspondants sur les 5 continents. Une présence mondiale. Sur 156 fréquences FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur le câble, le satellite et via plus de 1400 radios partenaires. Plus de 40 millions d'auditeurs chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 17% en 4 ans. RFI, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 15 millions de visites sur RFI.fr, dont 40% en langues étrangères. Des offres thématiques sur l'Afrique, la musique ou encore sur les savoirs et l'apprentissage du français à partir de 20 langues étrangères. Une communauté de plus de 21 millions d'abonnés sur Twitter et Facebook qui font d'elle la première radio généraliste française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance.
Chaque dimanche, soyez de la fête avec RFI, Popourri sur CUT 89,5 FM. Écoutez les voix du monde sur votre fréquence. Quelles sont les valeurs de la francophonie? Quels sont les enjeux de la francophonie? Qui sont les francophones de la planète? Qui sont les francophones de Toronto, de l'Ontario, du Canada? Qu'en pensent les jeunes, les femmes, les LGBT, les immigrants? Chaque dimanche, je vous invite à écouter, participer à nos jeux concours. Votre magazine est avec vous depuis plus de 33 ans. Sur CUT 89,5 FM, Popourri Show, sur votre fréquence, tout au long de l'année, la radio, comme je l'aime.
Madame, how would you like your baguette, with butter or marmalade?
Ça se passait super bien au début, jusqu'à ce que voilà, à la période de l'adolescence, je réalise un peu en parallèle que j'étais gay. Et j'ai compris extrêmement rapidement que ça allait être un petit peu la dernière chose à être dans ce milieu-là.
Quand il y a une minorité qui est agissante, un, deux joueurs qui ne veulent pas jouer avec vous, il dit « moi, je ne joue pas avec un PD ». Alors en 2020 ou en 2021, en 2022, on espère que le coach dira « bon, écoute, le problème, finalement, c'est toi l'homophobe, c'est toi qui dégage ». Mais moi, dans les années 2000 jusque 2010, non, on disait « le problème, c'est qu'on veut gagner dimanche, donc tes conneries, on s'en fout ».
On rêve pas d'être porte-drapeau de la cause homosexuelle, mais y a un besoin, en fait, de s'exprimer et de dire, en fait, que c'est OK d'être gay, c'est OK d'être homosexuel, c'est OK d'aimer qui on veut.
Informer et sensibiliser les populations quant aux réalités des personnes de la diversité sexuelle et de genre. C'est notre mission tout au long du mois de juin sur CUT 89,5 FM dans le cadre du mois des fiertés. Préparez vos chaussures et repassez le drapeau arc-en-ciel. La saison des marches des fiertés LGBT+ est de retour. Pour en savoir plus sur les activités de Pride Toronto ou de Franco Queer, suivez-nous sur Facebook ou popourishow.com. Be yourself, sois toi-même. Et c'est la thématique de Pride Toronto cette année. Bon mois des fiertés, où que vous soyez dans le monde.
En route pour Paris 2024 avec France Télévisions.
La fête de la musique, c'est à Erin que ça se passe. À la place d'Erin, concerts, DJs, food truck, animation, un rendez-vous incontournable. Une organisation de la commune de Pec, Culture Pec et Néo Radio. Plus d'infos sur neoradio.be.
Je suis la langue française, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que l'on me parle et c'est parce que l'on m'écrit. Je lègue 26 lettres pour l'art et la poésie, pour styliser les romans, les mots doux et les scénarios. Sers-toi de moi pour te battre et protéger les valeurs, pour créer la connivence entre auditeurs et locuteurs. Parce que la diversité éloigne la monotonie. Mali, Mississippi, Canada, Cambodge, Haïti. J'accompagne les nobles causes de façon pacifique. Je suis rythmique, philosophique, pas si vite. Libre, évolutive, la langue vie, révolte, danse. Et le livre des livres et livre des livres de pensée. Et je cohabite avec les dialectes et d'autres langues. Ma structure grammaticale est un rempart à la nouvelle langue. Je suis le développement durable, l'exemple d'écologie. Je suis la langue française, je suis la francophonie.
Bonjour et bienvenue à Popourri Show, votre magazine de la francophonie qui vous accompagne depuis 37 ans. L'ingénieur du son DJ Devera, production animation Eric Kader. Pour écouter nos émissions, que vous soyez dans le monde, une seule adresse, popourishow.com. Au menu ce dimanche 16 juin 2024, Popourishow en partenariat avec Franco Queer vous présente la belle programmation de Franco Fierté dans le cadre du mois des fiertés. Une sélection d'émissions spéciales et des activités en personne et virtuelles offertes en français s'il vous plaît. Découvrez toute la programmation exceptionnelle sur francofierté.ca/2024 ou tout simplement sur notre site web popourishow.com. Et à l'émission aujourd'hui, Made Lamotte, Rita Baga et les mythes de la drague. L'adoption d'une loi barbare anti-gay au Ghana dénoncée par plusieurs pays, y compris le Canada et les États-Unis. Témoignage d'une femme transgenre au Ghana. Quelle est la position de l'Église catholique sur l'homosexualité, le christianisme et l'homosexualité? Le très populaire blogueur sur les réseaux sociaux, frère Paul Adrien, sera des nôtres si on a le temps. Popourri Show célèbre le solstice d'été au rythme de la fête de la musique. Eh oui, pourquoi la fête de la musique se déroule le 21 juin? Qui en sont les créateurs de cette fête désormais planétaire? Jouer, danser, chanter sur toutes les musiques du monde en compagnie des antennes et des formations musicales de nos médias partenaires et peut-être à l'Alliance française de Toronto. Élections européennes 2024, coup de tonnerre et coup de poker en France avec la dissolution de l'Assemblée. Le Rassemblement national est-il aux portes du pouvoir? Réaction, analyse politique et en compagnie de nos journalistes. Et coup de gueule de notre collègue Claude Sillard qui dit, je cite, les afros portent une part de responsabilité dans la montée de l'extrême droite en France, mais la dissolution est une chance pour nous. Il est temps de lever la tête et de ne plus être les victimes de la République. Fin de citation. Pour nous joindre tout au long de cette émission, une seule adresse, popourri@cut.fm. Popourri Show, 37 ans à vos côtés. Toute l'équipe de la radio vous souhaite un été et une belle fête de la musique mémorable sur CUT 89,5 FM Toronto. Voici un numéro de cirque présenté dans le spectacle Émergence pour la semaine des célébrations de Fierté Montréal cette année. Je vous invite à aller acheter, madame, monsieur, la chanson Glitter Palace de René Wilkin. De plus, un grand merci à Alexandre Cormier pour le montage vidéo The Best. Rainbow Drag, Glitter Palace, Fierté Montréal. Bon mois de fierté. Happy Pride.
Appelle-moi, quelle est ma place? Après le blanc des projecteurs, montre-moi mes vraies couleurs. Après le glam éclatant, les confettis, les cerfs-volants. Je descends de la stratosphère, attache-moi au centre de la terre.
Informer et sensibiliser les populations quant aux réalités des personnes de la diversité sexuelle et de genre. C'est notre mission tout au long du mois de juin sur CUT 89,5 FM à Toronto, dans le cadre du mois des fiertés. Préparez vos chaussures et repassez le drapeau arc-en-ciel. La saison des marches des fiertés LGBT+ est de retour. Pour en savoir plus sur les activités de Pride Toronto ou de Franco Queer, suivez-nous sur Facebook ou popourishow.com. Be yourself, sois toi-même, c'est le thème de Pride Toronto cette année. Bon mois des fiertés, où que vous soyez.
Avec la nouvelle application Apprendre le français avec TV5 Monde, apprenez le français où vous voulez, quand vous voulez. 3000 exercices variés et amusants à partir de vidéos directement issues de nos programmes pour améliorer votre compréhension orale du français. Débutant ou confirmé, on vous guide pas à pas avec des tas d'astuces et de conseils. Avec l'appli Apprendre le français avec TV5 Monde, le français, c'est simple comme bonjour. Disponible gratuitement sur iOS et Android.
Popourri Show, en partenariat avec Français du Monde, Toronto a le plaisir de vous présenter Français du Monde, un nouveau rendez-vous d'actualité pour les Français d'ici et d'ailleurs. Français du Monde sur CUT 89,5 FM. Opportunités, bons plans, conseils pratiques, témoignages et les galères. Merci aux Français du Monde, Toronto.
Ce 9 juin 2024, la France élisait ses députés européens. Mais dès l'annonce des résultats, elle apprend ça.
Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale.
C'est une déflagration.
Et c'est vraiment un coup de tonnerre politique ce soir.
A big blow and a pretty big surprise.
Bah, c'est historique.
C'est un pyromane de la République.
La vie politique, c'est prendre des risques.
Récit d'une soirée historique dans la vie politique française.
Européenne 2024. Coup de tonnerre et coup de poker en France avec la dissolution de l'Assemblée. 9 juin 2024, Emmanuel Macron a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale après le score historique du Rassemblement national aux élections européennes. Rarement un scrutin européen n'aura eu de conséquences aussi nationales. Une bonne partie de cette heure est consacrée à ce pari risqué du chef de l'État français. L'annonce de la dissolution de l'Assemblée par Emmanuel Macron a surpris tout le monde. Et désormais, c'est une nouvelle campagne qui s'ouvre, car dans 2 semaines aura lieu le premier tour des législatives anticipées. À force de jouer avec le feu, le chef de l'État pourrait finir par se brûler, en entraînant dans l'incendie le pays tout entier. Avant de passer aux journalistes et analystes politiques sur France Inter, écoutons avec attention le coup de gueule ou les commentaires de notre collègue, l'animateur number one de la très célèbre émission sur RFI, Couleur Tropicale, Claudie Sillard. Il ne mâche pas ses mots sur la très grande responsabilité des communautés noires en France et il les exhorte à se mobiliser lors des prochaines élections législatives. Place à Claudie Sillard.
Je vous fais une réaction à chaud après l'annonce du président de la République Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée nationale afin qu'il se dégage une nouvelle majorité qui lui serait favorable, le souhaite-t-il, oui évidemment, ou en tout cas qui dessinerait une nouvelle carte politique de la France. Si nous en sommes arrivés là, le président de la République en porte la responsabilité. Mais volontairement, je vais mettre tout ça de côté, on va pas venir dire qui a tort, qui a raison, qu'importe, c'est la réalité française aujourd'hui, une réalité qui s'écrit dans ce racisme qui se développe depuis si longtemps, entre lois iniques, celles contre le séparatisme et le communautarisme, la loi immigration, la suppression de Franco, ce que l'on fait subir aujourd'hui au peuple kanak qui ne demande qu'une chose, c'est de reprendre sa liberté, et ça, ça me paraît le plus important, l'absence de millions de Français et de Français afro, métis et autres de prendre part à la vie politique française, à s'engager dans ce pays-là qu'ils disent être le leur puisqu'ils y vivent, ils y payent des impôts, ils y apportent leur talent et ils sont, les afros donc, hein, ma communauté, incapables de faire autre chose que de jouir, de prendre du plaisir, incapable de se dire il est temps d'entrer dans cette bataille-là, dans cette bataille politique, de prendre notre place pour que nos enfants vivent mieux ici. Moi, c'est à eux que je pense ce soir. Parce que vous êtes responsable de l'extrême droite qui passe son temps à glaner des victoires comme ça, jour après jour dans ce pays-là. Pourquoi ? Je pourrais évoquer celles et ceux qui se comportent mal. Mais ils ne se comportent pas mal dans le regard des autres, ils se comportent mal pour eux-mêmes, pour leur famille, pour leurs parents, pour leurs enfants, entre incivilité et tout ce que vous pouvez dénoncer. Ils sont responsables de la montée de l'extrême droite en France, parce qu'ils donnent des arguments pour que des Français, leurs concitoyens, votent à l'extrême droite, même des afros votent extrême droite. Aux Antilles, à La Réunion, à Mayotte, en Guyane et en France hexagonale, des gens votent à l'extrême droite. Ils sont afros parce qu'ils en ont marre de comportements de d'autres afros. C'est hallucinant. Hallucinant. Et puis donc, vous qui êtes incapables d'entrer dans cette vie politique, si ce pays, en réalité, vous ne voulez plus y vivre, il faut partir. Non mais je vous le dis comme ça, il y a des millions de gens, de Français afro, qui n'ont pas d'autre terre de repli que cette terre-là. À la fois ils respectent leur territoire d'origine, ils font souvent des choses dans leur territoire d'origine, dans le pays de leurs parents ou de leurs grands-parents, mais ils ont décidé que la France était leur pays. Alors jouez votre rôle. Arrêtez d'être comme ça, d'être juste des consommateurs. Regardez la publicité. Vous savez pourquoi on voit autant de noirs dans les spots de pub ? Parce que vous êtes considérés uniquement comme étant des consommateurs. Vous voyez, je dis vous et je dis pas nous, volontairement. C'est-à-dire qu'à quel moment vous allez comprendre que s'unir pour bâtir, c'est grandir ensemble ? Donc nous là, moi depuis un an et demi, je rencontre des gens, je fais des discussions avec des gens, parfois ça avorte, parfois on avance un petit peu, parce que je suis à une croisée des chemins. Je me dis, mais avec qui je vais m'engager? Qui va suivre derrière? Je vais encore me mettre en danger dans ma vie, mettre en péril ma vie professionnelle, mettre en péril l'équilibre de ma vie privée, pour des gens qui sont incapables d'aller jusqu'au bout des combats et qui sont là en train de, dans l'émotionnel, de critiquer quelque chose qui se passe, une déclaration d'un politique, d'un journaliste, de je ne sais qui, d'un artiste. Mais lorsqu'il faut construire, il n'y a personne. Il n'y a personne. Vous êtes français, vous avez une carte d'électeur, vous payez des impôts, mais vous êtes incapable de partir au combat. Mon projet, c'est de vous réunir. Qu'importe que les gens disent que c'est un parti, un mouvement communautaire. On s'en fout! Vous êtes français ou pas? La couleur de la peau, on s'en fout. On y va, on va au combat. Humanisme. Respect de la dignité humaine. Respect de chaque individu, quelle que soit la couleur de sa peau ou sa religion. Il est là le vrai combat. Pour l'humanité. Il est là. Et dans ce pays-là, ce combat-là, vous devez pouvoir le porter. Vous êtes responsable si le Front National, vous voyez? J'arrive pas, moi. Pour moi, le Front National, c'est le Rassemblement National. Vous êtes responsable si l'extrême droite est si puissante en France. Par votre inconséquence, par votre absence de posture, de décision prise pour entrer dans l'arène, vous êtes responsable. Et il faut arrêter de dire les gens sont racistes, les gens ne nous aiment pas. Faut arrêter ces conneries-là. Vous êtes responsable. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Alors nous verrons, parce que là maintenant, on n'a pas d'autre choix. Le président Macron, ce qu'il fait, il ne veut pas être celui qui en 2027 aura permis à l'extrême droite d'arriver au pouvoir. Donc il fait quelque chose de très simple. Il dissout l'Assemblée nationale afin de dégager une nouvelle majorité, mais il prouvera dans les livres d'histoire qu'il s'est opposé à la montée de l'extrême droite. Alors qu'il est responsable. En partie en tout cas. Maintenant c'est à vous. Français afro à qui je m'adresse, serez-vous debout pour vous inscrire dans un mouvement citoyen politique pour dire que vous êtes là? Ou est-ce que vous ne voulez rester que des amuseurs, que des amusés, que des personnes que l'on n'utilisent parce que ce sont des consommateurs. Est-ce que vous voulez être uniquement ça ? À vous de choisir.
Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Je signerai dans quelques instants le décret de convocation des élections législatives qui se tiendront le 30 juin pour le premier tour et le 7 juillet pour le second. Cette décision est grave, lourde, mais c'est avant tout un acte de confiance. Confiance en vous, mes chers compatriotes, en la capacité du peuple français à faire le choix le plus juste pour lui-même et pour les générations futures.
Et débat ce matin sur le séisme de l'élection européenne et de l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale. Démarre désormais une campagne éclair et une période d'incertitude dont on parle ce matin avec Guillaume Roquette, le directeur de la rédaction du Figaro Magazine.
Bonjour.
Bonjour, avec Jean-Michel Apathy, éditorialiste politique. Bonjour. Dans l'émission Quotidien, Jérôme Sainte-Marie, politologue, directeur de l'école de formation des cadres du RN. Bonjour.
Bonjour.
Françoise Fressoz, bonjour.
Bonjour.
Éditorialiste politique au quotidien Le Monde. Et on termine ce tour de table avec l'économiste Julia Cagé. Bonjour.
Bonjour.
Et merci à tous d'être au micro de France Inter. On est ensemble jusqu'à 9h40. Premier tour de table pour savoir si vous avez été étonné, voire ahuri par l'annonce hier de cette dissolution de l'Assemblée nationale par le président de la République, Françoise Fressoz.
Ça a été une surprise, ça c'est évident, parce que au fond toute l'idée c'était de dire que les élections européennes c'est souvent un vote sanction, mais qu'il faut passer outre. Après, quand vous allez au-delà de la surprise, au fond c'est la marque d'une impasse totale dans laquelle était arrivé le président de la République, parce qu'au fond continuer comme il le faisait, c'était s'exposer sans doute à une motion de censure, donc un risque de dissolution au moment de la situation budgétaire, c'était s'exposer à une montée des contestations au sein de sa propre majorité, un début de préparation de 2027 après l'élection présidentielle. Et donc c'était pour lui perdre pratiquement le contrôle de la vie politique et arriver à un délitement qui pouvait effectivement conduire aussi en 2027 à la victoire du Rassemblement National. Donc c'est logique, mais ça reste quand même un énorme coup de poker.
Première réaction, Jean-Michel Apathy, en entendant ça.
Bah, moi, j'ai été ahuri parce que quand on voit quelqu'un se faire harakiri, que voulez-vous être autre chose que ahuri de voir ce spectacle ? Il y a aujourd'hui un courant politique et un seul qui a un turboréacteur. Les autres, ils ont des petits ventilateurs qui les poussent. Vous vous demandez qui va gagner la course à la fin juin ? On connaît le résultat.
Vous le voyez ? Vous voyez Bardella à Matignon, vous, Jean-Michel Apathy ?
Ah, moi, je vois le Rassemblement National au premier tour. Avec ses alliés, parce que vous comprenez, quand vous êtes aujourd'hui Éric Ciotti à Nice, vous vous dites, qu'est-ce que je fais ? Je passe une alliance avec le Rassemblement National ou je passe par la fenêtre de l'Assemblée Nationale ? Donc le Rassemblement National et ses alliés, ils vont écraser le match. Que a proposé Macron de faire campagne avec Gabriel Attal ? Il a 4 roues crevées, vous croyez qu'il va aller vite à Gabriel Attal ? Il n'y a aucune idée, il n'y a rien. La gauche est divisée, enfin c'est un harakiri complet. Donc j'ai regardé ça avec des yeux d'ahuri. Et pour vous dire la vérité, je me suis réveillé ce matin à 4 heures. C'est un peu la première fois dans la vie politique qu'on en voit. Que je me disais, mais...
J'ai fait un mauvais rêve.
Ouais, un peu ça, quoi, l'idée. Voilà.
Julia Cagé.
Le problème d'Emmanuel Macron aujourd'hui, c'est qu'il joue au poker avec la démocratie. Voilà, il a un problème d'ego. Il a centré toute la campagne européenne autour de lui, autour de son parti, autour de son honneur. Il a proposé plusieurs fois à Marine Le Pen de débattre avec elle. Bardella a débattu avec le Premier ministre Gabriel Attal. Il se prend une énorme claque électorale hier soir. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il organise des élections en 3 semaines. Vous savez ce que ça veut dire, des élections en 3 semaines ? On a 1 semaine pour déposer les candidatures. Il y a 2 semaines pour faire campagne. Ce ne sont pas des conditions de pratique dignes du jeu démocratique. Ensuite, et on va en discuter, si on peut mettre une touche d'optimisme à ce qui vient d'être dit, la gauche était divisée peut-être pour les européennes. Mais là, c'est aussi un choc historique pour la gauche. Pour moi, le principal enseignement de ce scrutin, c'est que le score de l'ensemble des gauches réunies est inférieur au score de l'extrême droite. C'est ça l'enseignement de ce scrutin. Donc c'est un tournant historique. C'est un tournant historique pour les gauches et les écologistes. Et je pense que c'est important qu'aujourd'hui, les gauches et les écologistes prennent leurs responsabilités, s'unissent, ne présentent qu'un candidat par circonscription, propose une alternative et remporte la victoire au Parlement. Mmh. C'est la responsabilité de Macron et c'est la responsabilité des gauches, ce qui peut se passer le 30 juin et le 7 juillet prochain.
On va y venir évidemment aux gauches. Guillaume Roquette, Emmanuel Macron avait-il une autre manière de sortir du piège Harakiri, disait Jean-Michel Apathy. Qu'en pensez-vous?
Je pense qu'il pouvait continuer comme avant. C'est d'ailleurs ce à quoi tout le monde s'attendait et c'est d'ailleurs ce qu'il nous avait annoncé. Emmanuel Macron n'a pas un député de moins aujourd'hui. La situation institutionnelle française n'a pas changé. Donc il a choisi effectivement de précipiter les choses. C'est une façon pour lui de reprendre la main. C'est une surprise pour tout le monde. Je crois que nous sommes tous tombés de notre chaise hier. Maintenant, sur le fond, je trouve que ça ne manque pas de panache. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes face...
Rire à gauche, comme on dit. Nous sommes rendus de l'Assemblée nationale.
Je n'attendais pas vraiment ça.
Nous sommes face à une situation politique qui est totalement inédite. Les Français envoient un message qui est considérable. Ça fait rire Jean-Michel, mais à part à Paris et la petite couronne, le Rassemblement national arrive en tête dans l'ensemble des départements français. Eh bien, il y a... de toute évidence les prémices d'une crise politique, en tout cas d'une défiance très nette. Que fait le président de la République? Il en appelle au peuple.
C'est gaullien, c'est gaulliste.
Oui, mais c'est je pense moi ça me rappelle effectivement
il était plus, il aurait pu attendre le mois de
il était plus malin que ça de Gaulle.
En 3 semaines.
Jérôme Sainte-Marie, votre analyse.
Elle est assez proche de celle que j'ai entendue dans la bouche de Guillaume Roquette. Moi, j'étais surpris, mais plutôt surpris en bien, en ceci qu'effectivement, il est assez fidèle, pour une fois, à l'esprit des institutions. Et c'est vrai qu'on vit dans une crise politique, en réalité, depuis les législatives de 2022. On n'a pas, il n'y a pas vraiment de majorité. On va de crise parlementaire en crise parlementaire. Et évidemment, dès qu'il y a une crise sociale, alors il y a souvent des crises sociales en France, on voit bien les problèmes que ça pose. On a connu ça. Donc il y a un problème de légitimité du pouvoir qui est très fort. En plus, c'est un pouvoir qui a été élu en 2022 très largement de manière négative, précisément pour s'opposer au Rassemblement national qui a été élu en quelque sorte sur la peur. Et on a donc, là, on arrive au bout de ce cycle, de cette crise politique, et plutôt à ma surprise d'ailleurs, le président de la République en tire des conclusions assez logiques. Alors là, pour lui, alors là, j'essaye de rester vraiment dans l'analyse, pour lui, ça va être un peu compliqué, là j'aurai un tout petit différent avec Françoise Fressaux, c'est que le fait de provoquer cette dissolution et de pas attendre qu'il y ait une crise qui l'y contraigne, envoie un message très curieux à ses électeurs. Il y a beaucoup d'électeurs, à gauche et pas seulement, qui ont voté pour Emmanuel Macron sur cette promesse qui pour moi est un fantasme, mais bon, qui est dans l'esprit de beaucoup d'électeurs, de dire c'est comme ça, on s'oppose à l'extrême droite, à un danger supérieur, etc. Or là, par un renversement incroyable, c'est lui qui est en train de mettre le Rassemblement national en position de l'emporter. Là, donc évidemment, ça va provoquer un trouble, là, y compris chez les macronistes, très important. On a vu que la présidente de l'Assemblée nationale aujourd'hui fait entendre sa différence.
Alors elle dit qu'il y a des retours d'autre chemin possible. Voilà.
Oui, et j'ai des retours de terrain, des circonscriptions, avec des gens qui commencent à ne plus vouloir avoir l'étiquette macroniste pour se présenter, puisque en quelque sorte, cette promesse qui, à mon avis, était encore une fois fallacieuse, mais cette promesse n'a pas été tenue.
Julia.
Mais ça fait quand même des mois qu'Emmanuel Macron met le Rassemblement national en position de l'emporter. Ça fait des mois qu'Emmanuel Macron vote des textes avec le Rassemblement national. La loi immigration, il la vote avec le Rassemblement national. La loi anti-squat, il la vote avec le Rassemblement national. On en parlait ici. La fusion de l'audiovisuel public, en commission, il la vote avec le Rassemblement national. Il a créé les conditions de cette union. Ce qu'il fait hier, c'est qu'il donne raison à Marine Le Pen. Il ne laisse pas la démocratie s'exprimer au sens où je ne suis pas contre le fait qu'une dissolution.
Et Jordan Bardella qui fixe désormais l'agenda politique.
En 3 semaines. Vous voyez, il aurait pu dissoudre en septembre. On ne laisse pas 2 semaines à des partis politiques dans une démocratie qui fonctionne pour faire campagne.
Françoise Fressaus, puis Guillaume Roquette.
Alors, sujet, est-ce que la démocratie fonctionne correctement? Je pense que c'est un des sujets qui se pose là dans le cadre de cette dissolution. C'est que je pense aussi que s'il y avait une alternative très très forte à ce face-à-face entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, ça se verrait aussi dans le résultat des élections européennes. Autrement dit, vous voyez la droite qui continue à chuté. Mmh. Vous voyez la gauche qui ne fait pas mieux qu'en 2019. Et donc, on a un problème au sein de ce qu'on appelait le bloc anti-Le Pen, c'est-à-dire qu'il y a un émiettement, une fragilisation. Et moi, ce qui me frappait dans le fonctionnement de cette démocratie parlementaire depuis la majorité relative, c'est l'incapacité de faire des compromis positifs, de dire au fond, on discute avec les uns et les autres et on vote parce que c'est un peu ce que regrette Yaël Braun-Pivet, mais je pense qu'il y a eu des mains tendues qui n'ont pas été, qui n'ont pas reçu de... Les LR n'ont jamais voulu rentrer dans une coalition, et donc je pense que c'est ça aussi collectivement qui se solde, c'est une incapacité dans une scène politique bouleversée avec un Rassemblement national qui effectivement est en position à un moment de prendre le pouvoir, d'avoir un bloc qui s'y oppose et qui arrive à dealer des choses.
Guillaume Roquette puis Jean-Michel Apathy.
Oui, moi je pense aussi que Emmanuel Macron depuis 21h hier soir ne subit plus la situation politique. C'est une façon pour lui de reprendre la main et de revenir en fait aux fondamentaux du macronisme, c'est-à-dire de dire entre les extrêmes et moi, il n'y a rien.
Est-ce qu'il ne se met pas dans la main au contraire de Jordan Bardella ?
Non, je ne le pense pas parce que d'abord, Jordan Bardella, et en ça je partage pas l'analyse de Jean-Michel Apathy, est loin d'être arrivé à Matignon encore. Parce que entre un vote aux européennes, qui est un vote entre guillemets sans conséquence, un vote protestataire et une majorité avec notre mode de scrutin qui est, dont on sait qu'il demande vraiment un rassemblement très large, ce n'est pas du tout gagné pour le Rassemblement national.
Ipsos nous dit vote d'adhésion désormais.
Oui, vote d'adhésion, mais dans quelle proportion ? Est-ce que les candidats de droite vont se retirer au profit du candidat Rassemblement national s'il arrive devant eux ? Tout ça, ça fait quand même beaucoup de conditionnels. Moi, je pense plutôt qu'on va vers une situation politique complexe, ça c'est une banalité, mais aussi avec à l'Assemblée nationale... une absence de majorité absolue. Et dans ces cas-là, qui reprend la main dans la Ve République ? C'est le président de la République. Parce que lui, pour le coup, il reste là et il peut manœuvrer comme il l'entend.
Jean-Michel Apathy.
Il y a une question très difficile à scruter tout de suite, mais qui va être essentielle. Quelle place va prendre Emmanuel Macron dans la campagne ? Est-ce qu'il va être, comme doit l'être un président de la République, un peu en recul, parce qu'après, il doit cohabiter ? Où est-ce qu'il va être dans la campagne ?
À votre avis,
vous avez la réponse.
Oui, mais alors attendez, d'accord. Alors prolongeons un petit peu. Il est au premier rôle de la campagne. Il propose un débat à Marine Le Pen. Et s'y perd ? Qu'est-ce qui se passe ? Vous savez, Gambetta, il l'a dit il y a longtemps, c'est en 1877. Monsieur le Président, c'était une thématique identique. Monsieur le Président, vous allez vous soumettre ou vous allez vous démettre. Ce qui nous pend au nez, c'est... L'élection législative, les élections, elles sont là. Mais une élection présidentielle peut être beaucoup plus rapprochée qu'on ne croit. Emmanuel Macron, hier soir, a fait quelque chose qu'on peut caractériser simplement. N'importe quoi. C'est un coup de chaud, sans réfléchir aux conséquences. Il dissout l'Assemblée nationale. Peut-être, vous n'avez peut-être pas tort, Guillaume, hélas, avec le sentiment de reprendre quelque chose en main. Et maintenant qu'il a tout cassé, qu'est-ce qu'il fait ? C'est lui qui va diriger la campagne, c'est lui qui va faire des propositions nouvelles, il est incapable de proposer une coalition. Il n'y a rien qui marche dans son scénario. Le feu dans la plaine pour le Rassemblement national, heureusement ils sont bêtes comme leurs pieds au Rassemblement national. Jordan Bardella a dit « je suis prêt à la Matignon, je ne suis pas candidat aux législatives ». Alors déjà quand vous entendez ça, vous vous dites « toi, Coco, cours de sciences politiques zéro », viré de Sciences Po. Déjà, ça commence comme ça. Vous savez, il n'y en a pas un pour acheter l'autre. Hein.
Alors, Julien Cachet veut dire un mot, puis Jérôme Sainte-Marie.
Non, en fait, ce qu'on a vu
hier... J'en ai mis un peu à tout le monde.
C'est la principale force d'opposition aujourd'hui à l'extrême droite, c'est pas Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, c'est 15%. La principale force d'opposition à l'extrême droite, c'est la gauche unie avec 32%. Je réponds à Françoise Fressoz. La gauche est relativement supérieure d'un peu en 2024 qu'elle ne l'était en 2019. Surtout, la gauche est en capacité de mobiliser. Qui vote aujourd'hui pour le Rassemblement national ? Les classes populaires, des bourgs et des villages. Qui a des réponses à apporter aux problématiques des classes populaires, des bourgs et des villages ? Ce n'est pas Emmanuel Macron. C'est la gauche unie, avec des propositions
alors,
de redistribution du service public. Et c'est quand même ça aussi dont il faut qu'on débatte.
Je voudrais maintenir l'ordre des débats, s'il vous plaît.
Il y a quand même un troisième bloc dans le débat politique français. Ce bloc, c'est un tiers des voix. Il faudrait quand même qu'on le mette autour de la table.
Alors, autour de la table, déjà, nous sommes avec Guillaume Roquette, je le redis, le directeur de la rédaction du Figaro Magazine, Jean-Michel Apathy, éditorialiste dans l'émission Quotidien, Françoise Fressoz, éditorialiste politique au Monde. l'économiste Julia Cagé qui avait la parole à l'instant, et Jérôme Sainte-Marie, politologue qui dirige l'école de formation du RN, auquel je donne la parole.
Oui, alors j'étais presque à deux doigts d'être d'accord pour une fois avec M. Apathy, mais vu ses commentaires sur ceux qui travaillent avec le Rassemblement National, je vais être obligé de ne pas l'être. Non, en ceci qu'effectivement, je reviens un peu sur l'analyse de ce qui se passe actuellement et les perspectives par rapport aux prochaines élections législatives. C'est vrai qu'il y a quand même un énorme problème. Ça me fait penser beaucoup plus à 1997 qu'à 1968. C'est-à-dire en 1968, vous avez une vraie crise, il y a une dissolution par le général de Gaulle qui est remportée, ce que les Français comprennent bien.
On la comprend.
C'est une issue logique à une crise sociale qui était devenue une crise politique. Et donc, c'était les gaullistes remportent ça triomphalement en juin 68. Inversement, je garde un souvenir plus précis de 1997.
La gauche gagne.
Et là, effectivement, en 1997, vous avez... Et donc, ce qui permettra la plus grande vague de privatisation grâce à M. Jospin, je vous le confirme effectivement. Toujours pour revenir aux choses sérieuses, en 1997, c'est un énorme problème tout de suite. Jacques Chirac fait une dissolution. Pas mal de commentateurs, d'ailleurs, et de sondeurs, etc., trouvent ça génial.
Le confort.
Ils trouvent ça mitterrandien, machiavélien, etc. Mais les Français, le citoyen normal, qui est beaucoup plus logique, qui dit pourquoi? Et effectivement, cette idée s'installe très rapidement que c'est une dissolution de confort, et les gens détestent ça, qu'on joue avec les institutions
pour des fins
partisanes.
Ou de
je pense qu'on est beaucoup plus là-dedans aujourd'hui.
Carmen, je suis en colère, je ne comprends pas cette dissolution. On dirait qu'Emmanuel Macron a agi parce que vexé par le résultat de Valérie Ayer. Vous souhaitiez la parole, Françoise Fresno,
oui,
je vous la donne avec plaisir.
Je pense que ce qu'on vit aujourd'hui remonte à loin. Autrement dit, l'échec d'Emmanuel Macron, qui est patent, qui est spectaculaire là, ça succède à l'échec d'une gauche au gouvernement qui avait essayé de faire une synthèse, qui n'a pas marché. Ça succède à l'échec de Sarkozy qui avait essayé de faire le rassemblement. Et donc, on a cette fragilité continue de ce que j'appelle, moi, le bloc républicain. Et je trouve que les réactions là, c'est on reste dans la traditionnelle opposition droite-gauche. Tout ça, c'est la faute à Macron. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Par ailleurs, ça se déroule dans un contexte européen où on voit les forces d'extrême droite qui sont en poussée, où on voit au Parlement européen, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc si on n'arrive pas à dépasser ça et qu'on n'arrive pas à essayer de comprendre ce qui se passe exactement, ce qu'essaye d'être tenté, je pense qu'on reste aussi dans une impasse et que c'est compliqué.
Guillaume
Roquette. Il n'est pas exclu d'ailleurs que Emmanuel Macron anticipe une défaite de son camp et qu'il considère que c'est un moindre mal, je mets toutes les guillemets qui s'imposent, d'avoir Emmanuel Macron à Matignon, Jordan Bardella, et avec lui-même à l'Élysée, plutôt que d'avoir en 2027 un Rassemblement National qui aurait à la fois la présidence de la République et une majorité à l'Assemblée. Regardez ce qui s'est passé au Royaume-Uni. Il y a une majorité qui était favorable au Brexit, qui est arrivée au pouvoir. Les Britanniques se sont rendus compte que c'était pas une bonne idée. Ils vont revoter en même temps que nous, d'ailleurs, je crois. Et il est probable que les travaillistes reviennent au pouvoir. Donc même si j'étais de gauche, ce qui est une hypothèse d'école, je me dirais, mais après tout, si le Rassemblement National est aussi mauvais et s'ils sont aussi idiots que Jean-Michel Apathy le dit, bah peut-être que ça va se voir s'ils arrivent au pouvoir.
Mais donc c'est un laboratoire en direct.
À quel prix pour les Français, pendant deux ans, à quel prix pour les libertés, à quel prix pour les migrants, à quel prix pour les plus modestes qui vont se faire taper dessus par le Rassemblement National qui mène une politique de pauvrophobie? On peut quand même pas jouer avec le peuple français pendant deux ans pour dire en 2027, vous avez bien appris
le peuple français, on lui donne
non,
la parole.
L'hypothèse.
Je n'ai pas dit que le Rassemblement National était idiot. J'ai dit que j'étais surpris ce matin de comprendre que celui qui postulait à Matignon a dit « je ne serai pas candidat aux élections législatives ». J'ai du mal à comprendre comment le Rassemblement National aborde cette question. Ou bien, pour parler aussi de ça qui n'est pas rien, Jordan Bardella a montré de telles insuffisances pendant la campagne européenne que peut-être Marine Le Pen va se dire « est-ce que c'est lui qui doit aller à Matignon ?» Quant au fond des choses, je n'ai aucun doute, et peu importe que ça vienne de loin, qu'aujourd'hui, c'est la situation d'aujourd'hui, une famille politique a le vent en poupe, elle est portée par la peur de l'immigration, qui est sans doute le déterminant principal du vote. Cela, vous ne le défaites pas avant le 30 juin, vous pouvez faire comme vous voulez, mais ça va être d'une puissance terrible, c'est une tornade qui va s'abattre, que le Rassemblement National est seule la majorité à l'Assemblée nationale après ces élections législatives est, à mon avis, une possibilité qu'on ne doit pas écarter tout de suite.
Alors, Jérôme Sainte-Marie, puis on parle de la gauche.
Il va finir par être d'accord avec moi, vous allez voir.
Je voudrais réagir sur la motivation principale du vote, c'est très clairement l'immigration complétée par des dimensions sociales, etc. Mais l'immigration demeure le vecteur profond de ce vote, comme on le constate dans différents pays européens, y compris d'ailleurs, comme on l'a constaté hier. Pour revenir sur cette hypothèse un peu politologique, l'idée, est-ce que Macron n'est pas en train de manœuvrer pour justement aller organiser une cohabitation à son profit, en pensant à l'exemple, comme toujours, mitterrandien, etc. S'il le fait, je pense que c'est une erreur de sa part, parce que c'est un raisonnement purement statique. Ça, c'est vraiment de la politique en chambre. Je crois que si jamais le Rassemblement National remporte, comme il est en situation de le faire désormais, les élections législatives, il y aura, et j'ose le mot, un véritable état de grâce dans le pays. État de grâce comme en 1981, dans la mesure où des catégories sociales, des catégories culturelles, des gens qui se sentent écrasés, en quelque sorte, dont la parole leur paraît peu reconnue dans les médias notamment, vont enfin l'emporter. Ça provoquera un choc de confiance dans la population de base, dans la population française, dont je crois et dont on n'a pas idée ici, et ça provoquera ensuite une dynamique, comme tous ces grands changements politiques, une dynamique, je crois que M. Ruffin parlait du Front Populaire il y a quelques minutes sur cette antenne, ouais. Eh bien le Front Populaire, c'est pas seulement un vote, c'est aussi une dynamique sociale.
Françoise
en cas
Fressos,
de victoire du Rassemblement National, il y aura une dynamique de ce genre dans l'opinion.
Françoise Fressos, puis Julia Kahn.
Alors, je pense que là, se pose la question de l'articulation entre les élections européennes, qui sont souvent une élection, au fond, assez lointaine sur les enjeux, mais qui peuvent donner des dynamiques, effectivement, sur la thématique de l'immigration, de la colère sociale. Et les législatives, c'est-à-dire que les législatives vont se poser les questions de le Rassemblement National en responsabilité, qu'est-ce qu'il fait face à la situation budgétaire, qu'est-ce qu'il fait face au plan santé, comment il se comporte. Et là, je pense qu'il peut y avoir une dimension de il ne suffit pas d'alimenter la protestation, est-ce que vous êtes vraiment en état de répondre aux préoccupations des Français, comment vous le faites. Et je pense que là, il y a quand même une dimension de fragilité, où la Rassemblement National a été l'opposant universel pratiquement sur tout, mais que s'il y a un programme de gouvernement à déterminer, ça sera beaucoup plus fragile. Donc ça, c'est l'interrogation à mon avis majeure qu'il y a. L'un des risques, moi, de cette dissolution, c'est plutôt qu'il n'y ait pas de majorité absolue, qu'on se retrouve dans une situation comme aujourd'hui, et à ce moment-là, se pose la question pour Emmanuel Macron, qu'est-ce que je fais de mieux que ce que je pouvais faire avant la dissolution.
Je
pense que c'est ça le pire.
Julia Cagé voulait réagir.
Il faut quand même dire les choses très clairement. La première préoccupation des Français aujourd'hui, c'est le pouvoir d'achat. Maintenant, Monsieur Sainte-Marie, j'aimerais bien que vous m'expliquiez comment le Rassemblement National va créer une dynamique sociale et populaire comme en 1981 en supprimant l'impôt sur la fortune immobilière. Tout le programme économique du Rassemblement National aujourd'hui, et si vous regardez d'ailleurs l'alliance qu'appelle Mario Maréchal Le Pen de ses voeux, c'est l'alliance de toutes les droites. Et vous n'avez pas... Ils peuvent voter une loi immigration ensemble. Ça, ils peuvent très bien le faire. D'ailleurs, ils l'ont déjà fait. Mais quand il va falloir voter des impôts ensemble entre l'électorat d'Éric Zemmour, l'électorat d'Éric Ciotti, l'électorat de Rassemblement National, ça ne tient pas debout. Le parti qui peut redistribuer, redonner du pouvoir d'achat, lutter contre l'inflation, financer des services publics, c'est la gauche. Ensuite, par contre, et vous avez raison, monsieur Apathy, c'est la gauche unie. Il ne s'agit pas là, aujourd'hui, de recréer l'union de la gauche du jour au lendemain. On a une semaine pour déposer des candidatures. Ça veut dire qu'on a une semaine pour se mettre d'accord sur le fait d'avoir un candidat des gauches et des écologistes par circonscription. Et ensuite, deux semaines pour faire un programme avec des propositions sur les services publics, sur le protectionnisme, sur la redistribution, sur les véritables préoccupations.
Vous savez,
des Français.
Et on a eu ce débat tout à l'heure, beaucoup d'électeurs ont voté pour Raphaël Glucksmann pour ne pas voter pour Jean-Luc Mélenchon. Ce problème-là, comment vous le mettez entre parenthèses dans la reconstruction de la gauche ?
Mais ce problème-là, il va bien falloir l'affronter. La gauche unie, aujourd'hui, elle fait 32%. Donc la gauche désunie, elle se fait balayer. Raphaël Glucksmann, je l'ai entendu tout au long de cette campagne. À l'exception d'hier soir, tout au long de cette campagne, il a dit qu'il voulait l'union. Ce matin, c'était
il a aussi
trentaine.
Il a aussi qualifié. Il a aussi dit Jean-Luc Mélenchon et Robespierre, quand même.
Mais écoutez, ce matin, à votre antenne, il y avait François Ruffin. Vous avez entendu Clémentine Autain. Vous avez entendu hier Alexis Corbière. La LFI, ce n'est pas qu'une seule personne. Jusqu'à nouvel avis, Jean-Luc Mélenchon, il n'est pas chef de parti aujourd'hui. Donc, laissons les chefs de parti se mettre autour de la table.
Jean-Michel Apathy.
D'ici à vendredi, il faut qu'on s'entende sur des candidatures uniques. Et après, on voit ce qu'est le programme. Bon, c'est à l'envers.
Il y a des éléments comme
c'est à l'envers. C'est à l'envers qu'il faut travailler. Vous êtes candidat ensemble si vous savez ce que vous voulez faire ensemble.
Vous savez, il y a eu le programme de la NUPES. Il y a la société civile. Il y a tous les militants, les activistes. La gauche, on sait ce qu'elle peut faire une fois qu'elle est au pouvoir. Elle ne va pas réinventer la poudre. Oui. Elle a des propositions, il va falloir les améliorer et il va falloir y aller
l'analyse
avec un seul candidat.
De Guillaume Roquette sur l'union de la gauche.
Effectivement, l'ensemble des gauches est à entre 32 et 33%, mais l'ensemble des extrêmes droites est à 38%. C'est-à-dire le score de Jordan Bardella, puis celui de Marion Maréchal. Si vous rajoutez la droite de gouvernement, on est à 47%. Donc, je ne sais pas comment tout ça va s'organiser, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a une réalité d'un rapport de force, et moi, je ne le vois pas en faveur de la gauche. Et puis sur le fond, c'est-à-dire sur les motivations du vote, c'est vrai que le pouvoir d'achat arrive en tête dans les préoccupations des Français, parce que c'est un problème immédiat qui se pose quotidiennement à chaque fois que les gens vont faire leurs courses. Je ne suis pas certain qu'il y ait une attente forte par rapport à la classe politique sur ce sujet, parce que les gens savent bien que le gouvernement ne peut pas autoritairement augmenter les salaires dans les entreprises. En revanche, les Français ont le sentiment, et je pense pas à tort, que sur l'immigration, on peut faire autre chose. C'est la raison pour laquelle il y a peut-être une promesse d'efficacité plus forte du côté droit que du côté gauche.
Jérôme Sainte-Marie.
Julien Cagé, si vous me le permettez. Je crois que, justement, j'allais un peu vous répondre sur le fait que les Français veulent, comme on dit, du social, mais ils veulent du social à condition qu'il y ait encore de la production. C'est-à-dire que vous pouvez toujours promettre aux habitants de Champagne-Ardenne ou du Nord d'augmenter le SMIC s'il n'y a plus d'usines, grâce à la politique européiste dont votre camp, votre gauche particulière a toujours été
Vous savez, moi, j'ai qu'une gauche. Justement, j'appelle à l'union de toutes les gauches. Vous n'en pas une particulière.
La partisane. Vous savez que la gauche est clairement divisée, par exemple, lors des votes aux élections
Gauche est beaucoup moins divisée que la droite.
Je finirai ma phrase.
Vous m'interpellez.
Simplement, la gauche est clairement divisée, par exemple, sur les deux référendums de 92 et 2005, où on touchait à l'essentiel. C'est-à-dire qu'effectivement, sur les notions de protectionnisme ou d'Europe, la gauche s'est profondément divisée. Et si effectivement énormément d'électeurs, apparemment 54% d'après Ipsos des ouvriers, 40% des employés ont voté pour la liste Bardella. Oui. Or, il y avait une vingtaine de listes. Vous vous rendez compte du phénomène? C'est justement parce que les gens veulent avant tout qu'on assure la production dans le cadre national pour pouvoir maintenir autant que faire se peut notre modèle
Julia
social.
Julia Cagé, vous voyez une Clémentine Autain ou un François Ruffin quitter Jean-Luc Mélenchon?
Il ne s'agit pas d'aller quitter Jean-Luc Mélenchon. Aujourd'hui, vous avez des députés et les filles en nombre. Il faut que l'ensemble de ces députés et les filles, les députés PS, Europe Écologie Les Verts, le Parti communiste, se mettent d'accord d'ici la fin de la semaine pour avoir un candidat unique de la gauche par circonscription. Ils ont tout à y gagner. On ne peut pas, ce que disait Guillaume Roquette tout à l'heure, ça serait un drame de tester le Rassemblement National pendant 2 ans. On n'en revient pas, on ne revient jamais en arrière sur le terrain des libertés. C'est de la responsabilité de ces femmes et hommes politiques, et c'est aussi de la responsabilité de Jean-Luc Mélenchon. C'est aussi de la responsabilité de Jean-Luc Mélenchon, de Raphaël Glucksmann, et je choisis à dessein ces deux noms, vu les propos qui ont été tenus hier soir, de faire en sorte qu'on ait une union des gauches et des écologistes.
J'ai une question pour Jérôme Sainte-Marie, qui forme les cadres du RN. Est-ce qu'on va avoir la vérité des prix, c'est une expression, d'ici les 3 semaines, sur le programme économique du RN? Parce que vous vous souvenez qu'il devait sortir ce livret avant les européennes, pour qu'on sache un peu où voulait aller le RN. Il n'est pas sorti opportunément, pour ne pas avoir à affronter aussi le vrai du faux, le fact-checking, les incohérences. Est-ce qu'on va enfin savoir quelle est la doctrine économique du RN?
C'est un certain nombre de choses, me semble-t-il, mais c'est bien sûr que ces choses-là vont être annoncées, ces choses-là ont été préparées. C'est absolument évident, avec justement une insistance particulière sur le dossier énergétique qui a déjà été largement développé, et dont je crois qu'effectivement ça va être annoncé, bien entendu, oui. Encore une fois, je m'occupe de la formation, je ne m'occupe pas du programme, mais le programme existe et ce programme a été largement développé. Ce programme est très combattu par les adversaires du Rassemblement National, ce qui est déjà un indice.
Et Bardella, il est quand même pour Matignon, votre avis ?
Mais bien entendu.
Ah oui, il n'y a pas de problème.
Guillaume Roquette,
ce point économique, ça va être essentiel. On a eu ce matin les chiffres du déficit de l'État pour les 4 premiers mois de l'année. On est à 92 milliards, c'est 10 milliards de plus que l'année dernière. Ces problèmes-là, ils resteront même après une nouvelle Assemblée nationale.
Merci à tous. Guillaume Roquette, directeur de la rédaction du Figaro Magazine. Jean-Michel Apathy, éditorialiste politique dans l'émission Quotidien. Jérôme Sainte-Marie, politologue chargée de l'école de formation des cadres du RN, Françoise Fressoze, éditorialiste politique au Monde, et Julia Cagé, économiste.
La fête de la musique, c'est à Erine que ça se passe, à la place d'Erine. Concerts, DJs, food truck, animation, un rendez-vous incontournable. Une organisation de la commune de Pec, Culture Pec et Néoradio. Plus d'infos sur neoradio.be.
Yeah. Oh, 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 oh. Yeah. Ils ont essayé, mais sans ce faire, il n'a pas marché. De moi, ils ont douté, je suis revenu pour confirmer. Et mon cœur s'est cassé, avec l'argent, je l'ai reconnu. C'est Dieu qui m'a donné, mais du ciel, c'était pas tombé. Moi, je fais jamais doucement, j'abuse. Moi, je préfère rester dans ma bulle. Elle voudrait connaître mon vécu. Mais je garde le silence, moi j'ai mes raisons. Pourquoi toujours tu m'accuses? Toi, toi t'es toujours dans l'abus. Toi, tu mérites qu'on se voit plus. Toi, attention, attention, j'ai monté la tension, tension. La pression, pression, je suis l'homme de la saison, saison. Partout c'est chez moi, je fais comme à la maison, maison. Donc attention, attention, je vais monter la tension, tension. Ils ont essayé, mais sorcellerie n'a pas marché. De moi ils ont douté, je suis revenu pour confirmer. Et mon cœur s'est cassé, avec l'argent je l'ai recollé. C'est Dieu qui m'a donné, mais tu sais c'était pas tombé. Ma chérie montre-toi, les regards sont sur toi. Avec moi ce soir, on va déranger les voisins. Allez montre-toi, les regards sont sur toi. Avec moi ce soir, on va déranger les voisins. Yeah. Qui t'a dit que j'fais pas les euros? Qui t'a dit que j'ai pas la mélo? Chou, ton buzzer comme Carmelo. Tout ce qu'on touche devient du roro. J'tombe une fois, j'me relève deux fois. J'ai les bons mots pour te parler. Avec moi bébé veut rester. Attention, attention, j'vais monter la tension, tension. La pression, pression, j'suis l'homme de la saison, saison. Partout c'est chez moi, j'fais comme à la maison, maison. Donc attention, attention, j'ai monté la pression, pression. Ils ont essayé, mais sans faire, il n'a pas marché. De moi, ils ont douté, je suis revenu pour confirmer. Et mon cœur s'est cassé, avec l'argent, je l'ai recollé. C'est Dieu qui m'a donné, mais tu sais, c'était pas tombé. Ma chérie, montre-toi, les regards sont sur toi. Avec moi ce soir, on va déranger les voisins. Ma chérie, montre-toi, les regards sont sur toi. Avec moi ce soir, on va déranger les voisins. Ils ont essayé, mais sans faire, il n'a pas marché. De moi, ils ont douté, je suis revenu pour confirmer. Et mon cœur s'est cassé, avec l'argent, je l'ai reconnu. C'est Dieu qui m'a donné, mais du ciel, c'était pas tombé. Moi, je fais jamais doucement, j'abuse. Moi, je préfère rester dans ma bulle. Elle voudrait connaître mon vécu. Mais je garde le silence, moi j'ai mes raisons. Pourquoi toujours tu m'accuses? Toi, toi t'es toujours dans l'abus. Toi, tu mérites qu'on se voit plus. Toi, attention, attention, j'ai monté la tension, tension. La pression, pression, je suis l'homme de la saison, saison. Partout c'est chez moi, je fais comme à la maison, maison. Donc attention, attention, je vais monter la tension, tension. Ils ont essayé, mais ça fait, il n'a pas marché. De moi, ils ont douté, je suis revenu pour confirmer. Et mon cœur s'est cassé, avec l'argent, je l'ai recollé. C'est Dieu qui m'a donné, mais tu sais, c'était pas tombé. Ma chérie, montre-toi, les regards sont sur toi. Avec moi ce soir, on va déranger les voisins. Allez, montre-toi, les regards sont sur toi. Avec moi ce soir, on va déranger les voisins. Yeah. Qui t'a
t'as dit que j'ai pas les euros qui, t'as dit que j'ai pas la mélange chou, toi buzzer comme Carmelo, tout ce qu'on touche devient du roro. J't'emmène une fois, j'me relève deux fois, j'ai les bons mots pour te parler, avec moi bébé veut rester. Attention, attention, j'fais monter la tension, tension, la pression, pression, j'suis l'homme de la saison, saison.
C'est moi,
partout c'est chez moi, j'fais comme à la maison, maison. Donc attention, attention, j'ai monté la pression, pression. Ils ont essayé, mais sans faire, il n'a pas marché. De moi, ils ont douté, je suis revenu pour confirmer. Et mon cœur s'est cassé, avec l'argent, je l'ai recollé. C'est Dieu qui m'a donné, mais disait que j'étais pas tombé. Ma chérie, montre-toi, les regards sont sur toi. Avec moi ce soir, on va déranger les voisins. Ma chérie, montre-toi, les regards sont sur toi. Avec moi ce soir, on va déranger les voisins.
Édition spéciale, le mois des fiertés en partenariat avec Pride Toronto et Franco Queer, seul organisme francophone à Toronto. Luttant pour les droits des communautés de SLGBTQI+, ici, là et partout. Nous attendons environ 3 millions de visiteurs. Est-ce que vous serez de la partie? Allez, soyez des nôtres tout au long du mois de juin pour célébrer les avancements des communautés de SLGBTQ+. Une série d'activités, d'événements et de parties avec nos meilleurs drag queens. Se greffe à une riche programmation. Pour tout savoir, francoqueer.ca ou popourichaud.com.
RFI, la radio d'actualité internationale du groupe France Média Monde, diffusée en français et en 13 autres langues. 480 journalistes à Paris, 42 nationalités, 400 correspondants sur les 5 continents. Une présence mondiale. Sur 156 fréquences FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur le câble, le satellite et via plus de 1400 radios partenaires. Plus de 40 millions d'auditeurs chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 17% en 4 ans. RFI, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 15 millions de visites sur RFI.fr, dont 40% en langues étrangères. Des offres thématiques sur l'Afrique, la musique ou encore sur les savoirs et l'apprentissage du français à partir de 20 langues étrangères. Une communauté de plus de 21 millions d'abonnés sur Twitter et Facebook qui font d'elle la première radio généraliste française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance. Merci.
Quoi de neuf? Les cafés du Créfaux. En partenariat avec Popourri Show et CUT 89,5 FM. Comment évoluent nos modes de vie et nos sociétés dans le monde? Comment se porte le monde de l'éducation, les francophonies et la diversité? Bienvenue au podcast Quoi de neuf à les cafés du Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, et la Faculté d'éducation de l'Université de Toronto et l'Institut d'études pédagogiques de l'Ontario. Le CREFO, un centre de recherche interdisciplinaire qui pose un regard critique sur les pratiques éducatives, sociales et langagières de la francophonie en Ontario, au Canada et dans le monde. Abonnez-vous au podcast Quoi de neuf à les cafés du CREFO et c'est gratuit. Vous pouvez y avoir accès où que vous soyez dans le monde. Et cette troisième saison est animée par professeur Laura Bisaillon et tourne autour du thème de la production, de la diffusion des connaissances sur les mobilités, les francophonies, la minorisation, le corps et l'État dans divers contextes du monde. Quoideneuf.ca. Abonnez-vous maintenant. De 11h à 13h, Popourri Show sur CUT 89,5 FM, Toronto. Toute la diversité de la francophonie sur votre fréquence.
Yeah.
En route pour Paris 2024 avec France Télévisions.
Ouvrons grand les Jeux avec Samsung, partenaire mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.
Je suis la langue française, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que l'on me parle et c'est parce que l'on m'écrit. Je lègue 26 lettres pour l'art et la poésie, pour styliser les romans, les mots doux et les scénarios. Sers-toi de moi pour te battre et protéger les valeurs, pour créer la connivence entre auditeurs et locuteurs. Parce que la diversité éloigne la monotonie. Mali, Mississippi, Canada, Cambodge, Haïti. J'accompagne les nobles causes de façon pacifique. Je suis rythmique, philosophique, pas si vite. Libre, évolutif, la langue vie, révolte, danse. Et le livre des livres et livre des livres de pensée. Et je cohabite avec les dialectes et d'autres langues. Ma structure grammaticale est un rempart à la novlangue. Je suis le développement durable, l'exemple d'écologie. Je suis la langue française, je suis la francophonie.
Toronto has officially kicked off Pride Month with its annual Progress flag raising ceremony here at City Hall.
Today, I'm thrilled to officially proclaim June as Pride Month in Toronto.
The vibrant ceremony featured many performances and speeches with Mayor Olivia Chow, Councillor Chris Moyse, and members of Pride Toronto all in attendance to honor and celebrate the 2S LGBTQI plus community.
Toronto will always be a place where people are free to be who they are and love who they choose. Yes, and Toronto will always be a place where we work together in the fight for human rights.
Great to celebrate today with everyone. Bon fête, happy Pride!
On marchera avec fierté aujourd'hui et on va se retrouver l'année prochaine et l'année d'après ça aussi. Parce qu'on continue de savoir que cette parade de fierté est essentielle. Et en tant que Montréalais, je suis tellement fier de pouvoir y être avec vous aujourd'hui. Merci mes amis.
Bonne parade.
Captez quelque chose sur votre appareil.
Qu'est-ce donc que cela ?
Oh, c'est incroyable.
On a découvert quelque chose de plus grand qu'on imaginait.
Un signal radio venu d'un autre monde.
The Mix.
The Mix.
L'aventure commence ici.
Objectif déterminé, commencez le compte à rebours.
Joachim Garraud, live.
En avant le spectacle.
Salut les Space Invaders et bienvenue à bord de la soucoupe The Mix pour ce voyage numéro 938. C'est Joachim Garraud aux commandes de la soucoupe. Nous allons démarrer avec un tempo de 126 pour finir à 140 BPM. Autant vous prévenir, ça va accélérer très dur avec Hardwell, Mingo Player, mais aussi le Kontaka, le Warehouse, DJ Destro. Et puis il y aura carrément Underworld, Born Sleepy ou même Prodigy à la fin de ce The Mix 938. Alors, un conseil, accrochez bien vos ceintures. Les Space Invaders et rendez-vous dans 60 minutes. À tout à l'heure.
The Mix.
Mettez le cap sur la tête.
Embarquement immédiat pour tous les Space Invaders. Space Invaders. The Mix. The Mix.
The Mix.
Ain't no party like a house music party. It'll take you to another place. Dance all night and forget your worries. Let the music take control.
Et c'est le mois des célébrations des communautés de LGBTQI+, dans le monde, et bien sûr sur CUT 89,5 FM. Bon mois des fiertés. Popourri Show est fier d'en faire partie, en collaboration avec bien sûr Toronto Pride et la Franco-Fierté. Des émissions spéciales, des animations, des concerts de drag queen, des ateliers, des projections de films et une foire communautaire sur la rue Church. Il y en a pour tous les goûts et il y en a pour toute la famille et les jeunes qui veulent célébrer la diversité des communautés LGBTQ+. Et le vendredi 21 juin, nos amis à Franco-Fierté vous invitent chaleureusement à la projection d'un film à voir absolument, Rosie, sorti en 2022. Et oui, film que j'ai eu l'occasion de voir. Le film sera suivi d'un panel de discussion avec José Young, Constant Bernard, deux acteurs, des actrices du film, ainsi que la gardienne du savoir autochtone, Diane Montreuil. Rosie est le premier long métrage de la scénariste, réalisatrice et actrice métisse Gail Morris, qui s'identifie comme LGBTQ+. Le film raconte l'histoire de Rosie, une orpheline de 6 ans qui part vivre à Montréal chez sa tante Frédéric. Un film sans prétention qui aborde des sujets rarement exploités au cinéma et qui possède suffisamment de cœur et d'humour pour divertir et toucher un large public. Rosie, une fille autochtone de 6 ans, pleine de vie et de joie, qui sème le bonheur autour d'elle, bien que la réalité de son quotidien ne soit pas aussi rose. Rosie, un film que j'ai eu le bonheur de voir, à voir absolument, et bien sûr un film qui a fait sa tournée dans plusieurs festivals de films. Rosie sera projetée à la bibliothèque de référence à Toronto, 789 à Rue Young, dans la salle Beaton, le vendredi 21 juin, je dis bien le vendredi 21 juin à 18h, c'est le métro Blue Young. Et je vous invite de vous inscrire en cliquant sur le lien que vous retrouverez sur la page web de francofierté.ca/2024 ou sur notre site web popourichaud.com. Et je me permets de vous présenter mon coup de cœur qui pourrait peut-être vous intéresser. Et oui, toujours aussi déterminé à nous éblouir, le Cirque du Soleil arrive une fois de plus chez nous. Et oui, avec tout un spectacle combinant poésie, art de la scène, acrobatie de haute voltige, qui explore l'équilibre précieux entre les humains, les animaux et le monde qu'ils partagent. Future, la protagoniste nous invite à entrer dans un univers fantaisiste où elle fait la rencontre de personnages animaux et humains. Animés par l'esprit de collaboration, ils unissent leurs forces pour reconstruire leur planète petit à petit et créer un monde meilleur. Écho, c'est la thématique de ce spectacle sous le chapiteau The Big Top 2150, 2150 si vous préférez, sur le boulevard Lakeshore West. Très facile à retrouver. Écho, un spectacle qui plonge le public dans un univers aux mille et une couleurs. Merveille, possibilité sur les thématiques de l'inventivité, espoir de la jeunesse et l'importance de l'empathie. Retrouvez les dates, les heures et surtout le code secret de promotion sur le site web de PrideToronto.com. PrideToronto.com, vous retrouverez aussi tous les spectacles du mois de juin sur PrideToronto.com. Amusez-vous.
Ce mix, un pur condensé, 100% dancefloor.
Eh oui, toute une annonce à cette semaine. Le gouvernement fédéral veut se faire pardonner, madame, monsieur. Eh oui, un monument national en l'honneur de la communauté LGBTQ+, sera inauguré bientôt à Ottawa. C'est en 2025, donc il faudra vous patienter encore. Donc, il rendra hommage aux discriminations subies par les personnes de la communauté de LGBTQ+, et oui, surtout dans tout le pays. Donc, monument national en l'honneur de la communauté LGBT+, en 2025, c'est une initiative du gouvernement du Canada. Et en dernière heure, la situation du français comme langue de travail au Québec, seul État francophone d'Amérique du Nord, est en train de devenir celle qui prévalait avant l'adoption de la charte de la langue française. Appliquer la loi 101 au cégep, disent certains, une nécessité pour la survie du français au Québec. Oui, la langue qui fait toujours débat au Québec. À peine arrivé au Nouveau-Brunswick, des francophones envisagent de partir au Québec. Faut bien dire ici que ce sont des francophones d'origine africaine. Lorsqu'elle s'installait à Moncton en septembre dernier avec sa famille, Yolande Djongo était certaine qu'elle pourrait travailler en français. Moins d'un an plus tard, cette mère de deux enfants originaire de Cameroun déjante et donc un article à retrouver absolument si cela vous intéresse sur notre site web ou sur le site de Radio-Canada. Et en France, campagne féroce pour les élections législatives du 30 juin prochain. Éric Ciotti, président des Républicains, crée les surprises. Et oui, belle surprise cette semaine en annonçant une alliance de la droite avec le RN. Et oui, de Marine Le Pen, Rassemblement National, colère, levée de bouclier et appel à sa démission chez les Républicains. En Haïti, malgré l'extrême violence, la pauvreté, la malnutrition, l'effondrement du système de santé et les fermetures d'écoles, la majorité des 3500 jeunes interrogés dans une enquête de l'UNICEF croient en un avenir meilleur pour les enfants. Et toujours en Haïti, trois policiers de la force anti-gang tués par les hommes de barbecue. Selon la presse haïtienne, la manœuvre était soigneusement préparée. Le déploiement de policiers kényans dans le cadre d'une mission soutenue par les Nations Unies, l'ONU, en Haïti, pays en proie à la violence des gangs, aura lieu probablement la semaine prochaine ou la semaine suivante, a assuré dimanche dernier le président kényan William Ruto. Et le 21 juin, c'est la fête de la musique. Toute l'équipe de la radio vous souhaite un très bel été. Bon appétit si vous êtes à table. Place au Journal d'Haïti et des Amériques.
Cosé Culti, le rendez-vous des cultures en Haïti. Redzamarov Zetren sur RFI.
Bonsoir à tous. Nous continuons à prendre plaisir à vous présenter ce programme, l'un des rares qui résiste et continue à tenir tête à la conjoncture. Cette semaine, je me suis déplacé pour me rendre jusqu'à Delma 32 pour vous apporter votre programme et croyez-moi, dans le contexte actuel, marcher dans les rues est un acte qui devrait être célébré à force que la capitale est devenue invivable ces derniers temps. Mais nous sommes là avec la culture pour boussole, pour vous combler de bonheur et de bonne humeur.
Merci d'écouter RFI, bienvenue si vous nous rejoignez. Il est 13h en temps universel, 15h ici à Paris.
RFI Midi, Anne Contner.
RFI Midi, suite et fin, nous irons en Haïti dans quelques minutes où finalement le gouvernement de transition est en place, comme le résume la presse. La nouvelle équipe sera investie dans la matinée. On en parle dans un instant dans le journal. Analyse à suivre aussi dans quelques minutes avec le politologue Jacques Nézy. Nous vous emmènerons dans les îles Galapagos mesurer les efforts mis en œuvre pour décarboner le territoire. Et puis le journal des Outre-mer, comme chaque jour, dans quelques minutes, avec Oda Naji Ali, à la une, un grand rendez-vous politique qui s'ouvre en Guadeloupe.
Le 18e congrès des élus de Lille, rendez-vous maintenu malgré l'actualité politique française, la campagne des législatives anticipée et au cœur des discussions, la question de l'évolution institutionnelle de la Guadeloupe. À tout à l'heure.
À tout à l'heure, on vous appelle dans une vingtaine de minutes et d'ici là, on va parler justement de l'actualité politique en France.
RFI Midi.
Avec vous, Charlotte Hydrac, bonjour.
Bonjour.
La dissolution pour la clarification des choses, Emmanuel Macron assume. Le président français s'est exprimé en fin de matinée après sa retentissante annonce de dimanche soir.
Oui, dans une conférence de presse, il a pris acte d'un blocage à l'Assemblée et des résultats des élections européennes. Maintenant, cap sur la suite, Emmanuel Macron appelle à un rassemblement pour dire non aux extrêmes. Il renvoie dos à dos l'extrême droite et l'extrême gauche. Et alors que le patron des Républicains a annoncé une alliance avec le Rassemblement national, les masques tombent, a commenté le chef de l'État. Il dénonce des alliance aux visions opposées.
Sur les retraites, pense-t-on une seule seconde que M. Ciotti, qui voulait aller plus loin que le gouvernement et porter à 65 ans l'âge légal, va gouverner avec M. Bardella, qui promet depuis des années aux Françaises et aux Français, avec Mme Le Pen, de revenir à 60 ou 62 ans, on ne sait plus très bien. De l'autre côté, que vont décider les députés socialistes, sociodémocrates, qui font alliance avec les députés de la France insoumise, sur la question de l'aide à l'Ukraine? Les uns veulent aider l'Ukraine, les autres veulent aider la Russie. Que vont-ils décider sur le nucléaire et l'énergie? Sur chacun de ces sujets essentiels, et je pourrais égrener la liste, ils pensent le contraire. Ces alliances sont des bricolages d'appareils, mais en aucun cas des majorités pour gouverner.
Je ne veux pas donner les clés du pouvoir à l'extrême droite en 2027, assure Emmanuel Macron qui appelle à un sursaut et qui précise il n'est pas question de débattre avec Marine Le Pen avant les législatives. Concernant l'alliance pour un nouveau front populaire à gauche, il parle d'une alliance indécente, je cite, avec la France insoumise. Léon Blum doit se retourner dans sa tombe, dit-il, référence à l'expérience du front populaire des années 30. La gauche, où ça continue à bouger, la répartition globale des circonscriptions entre insoumis, socialistes, communistes et écologistes a été rendue publique tout à l'heure. Aurélien de Vernois, vous êtes au siège du Parti communiste où se tiennent les discussions aujourd'hui, vous êtes en direct. L'heure est un rééquilibrage, c'est ça, par rapport aux législatives 2022 ?
Un fort rééquilibrage même, Charlotte. La France insoumise passant de 328 à 230 candidats, alors que le Parti socialiste associé à Place publique monte à 170, voire même un peu plus loin des 70 de 2022. Les insoumis affirmaient depuis lundi qu'ils étaient prêts à entendre leurs partenaires. C'est donc fait, même si les écologistes auront un petit peu moins de candidats qu'en 2022, entre 92 et 95 contre 100 il y a deux ans, les communistes restant à 50. 30 places sont quant à elles réservées à la société civile. Chez les négociateurs, on explique que l'objectif est que tout le monde y gagne et que chacune des formations progresse dans sa représentation au Parlement à l'issue de ces législatives. Mais évidemment, côté PS, il y a une vraie satisfaction, celle d'avoir fait entendre son bon score aux européennes.
Et puis, une avalanche d'hommages après l'annonce, ça continue, après l'annonce du décès de la chanteuse Françoise Hardy, une des dernières icônes des 60s, même si elle-même, elle rejetait complètement ce statut. Icône en France, mais aussi bien au-delà, aux États-Unis, elle avait notamment tapé dans l'œil de Mick Jagger, pour qui elle représentait, je cite, « un idéal féminin », rien que ça.
Carrément. Merci Charlotte Hydrac. Dernière partie de RFI Midi, nous sommes sur le continent américain jusqu'à 13h30, temps universel. On va parler de la fin des énergies fossiles, de l'espoir de jeunes athlètes pour les JO de Paris. Mais d'abord, retour sur la politique haïtienne.
RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
La presse haïtienne est invitée dans les prochaines heures à la villa d'accueil sur les hauteurs de Port-au-Prince. C'est là que doit avoir lieu la cérémonie officielle d'installation du Premier ministre de Transition, Gary Conille, et de son gouvernement. 14 ministres pour 18 ministères. La composition de cette nouvelle équipe a été publiée hier au journal officiel Le Moniteur. Aucun ancien ministre, révèle le Nouvelliste. Il y a quand même quelques figures connues, des cadres expérimentés, mais pas de percées audacieuses, écrit le journal. C'est aussi ce que note le politologue haïtien Jacques Nézy, membre du laboratoire caribéen de sciences sociales.
Il n'y a pas de grandes figures éclatantes. Certains sont des hauts cadres de certains ministères qui ont été promus. Par exemple, on prend celui du ministère du Commerce, celui de l'Éducation nationale. Ça a été d'ailleurs, une exigence du Premier ministre, c'est-à-dire c'était une tentative pour lui de contourner la puissance des forces partisanes qui vont aux élections. Donc, de ce point de vue, c'est réussi. Donc, on a un gouvernement qui reflète aussi l'entrée de personnalités qui étaient soit dans des fonctions diplomatiques comme celle de la ministre des Affaires étrangères et des Haïtiens vivant à l'étranger. Donc, on peut dire que c'est un gouvernement, disons, qui reflète une expression assez large, plus de l'opinion publique haïtienne.
Un gouvernement de 18 ministères avec donc certains portefeuilles regroupés, c'est beaucoup plus que l'équipe resserrée qu'aurait souhaité Gary Conille. Mais le Premier ministre n'avait pas d'autre choix selon Jacques Nézy.
Compte tenu des appétits à satisfaire, il a dû lâcher du lest, composer un gouvernement beaucoup plus large avec 14 ministres, parce qu'au départ, les membres du Conseil présidentiel voulaient composer eux-mêmes le gouvernement. Donc, il a imposé ses exigences dans la mesure où il avait indiqué qu'il y a un certain nombre de portefeuilles, notamment des postes, des ministères régaliens qui ne pourraient pas faire objet de discussion, c'est-à-dire le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Intérieur et puis le ministère de l'Économie, des Finances et de la Planification. Donc, il a pu avoir ce qu'il voulait. Donc, son gouvernement reflète bien, un, les exigences de l'ensemble des acteurs politiques, parce que eux, ils ont besoin de ressources pour concourir aux nouvelles élections. Et puis, deux, ce gouvernement aussi reflète l'objectif qu'il poursuit, c'est-à-dire répondre aux défis sécuritaires et organiser des élections. Organiser des élections pour ces acteurs politiques, parce qu'il veut bien que ces élections ne fassent l'objet d'aucune contestation et conduisent à un président légitime. Donc, qui dit légitimité, ça veut dire que son gouvernement doit faire l'objet d'une acceptation totale de l'ensemble des acteurs politiques. À ce point de vue, on peut dire qu'il est en train d'y parvenir.
Voilà les explications du chercheur haïtien, du politologue haïtien Jacques Nézy sur donc ce nouveau gouvernement qui sera investi tout à l'heure, équipe marquée aussi par des profils jeunes, très internationaux, comme Kathleen Florestal, prochaine ministre de l'économie et des finances. Elle a effectué une longue carrière dans des organisations internationales comme le FMI ou la Banque mondiale par exemple. Autre personnalité avec le même type de profil, Dominique Dupuy, chargée des affaires étrangères, qui était jusque-là ambassadrice d'Haïti auprès de l'UNESCO. Et là encore, ses choix n'ont rien d'étonnant pour Jacques Nézy.
L'international, on sait très bien, l'international pèse énormément dans le jeu politique haïtien. Et lui aussi, il vient du sérail international, donc il a compris qu'il aura besoin de l'appui international. Donc il tente de se positionner en même temps et de faire en sorte qu'il ait des ressources nécessaires pour la conduite d'une transition dans les meilleures conditions possibles, parce qu'on sait très bien aussi qu'il aura besoin de nouvelles ressources, non seulement pour l'administration au quotidien, pour la réforme de l'armée, de la police nationale, et aussi il a ce projet de faciliter l'insertion de la jeunesse, quand on sait aussi que plus de 50% des membres des gangs sont des jeunes de moins de 20 ans. Et on sait aussi que c'est une population assez jeune, la population haïtienne, 64% ont moins de 24 ans. Donc c'est dire qu'il a souhaité aussi intégrer des jeunes au sein de son gouvernement pour donner un signal. Et puis il a aussi ce souci de donner une image positive d'Haïti à l'extérieur.
RFI Midi.
Avec nos confrères de la première, on va parler de l'actualité des Outre-mer. On vous retrouve, Dana Jiali. Avec à la une aujourd'hui l'ouverture du 18e congrès des élus de Guadeloupe.
Oui, réunion de tous les représentants politiques de l'île, élus, départementaux, régionaux, maires, parlementaires. Congrès maintenu malgré la campagne pour les élections législatives anticipées qui vient de s'ouvrir après la dissolution de l'Assemblée nationale. Et au cœur des discussions, les travaux d'une commission créée pour l'occasion. 153 recommandations qui concernent notamment l'évolution institutionnelle de la Guadeloupe, Sébastien Gilles.
Les 23 membres de la commission mixte n'ont pas chômé depuis la mise en place de cet organe novateur fin 2022. Composé d'élus de la majorité et de la minorité du département et de la région, mais aussi du président de l'association des maires, ainsi que des parlementaires. Plus de 100 personnalités ont été ainsi auditionnées, allant des représentants de la société civile aux acteurs du secteur économique, sans oublier les organisations professionnelles. Ajoutez à ces auditions les 350 contributions écrites qui ont été formulées à travers le site internet dédié et la tenue également de 5 grands forums citoyens organisés, eux, dans les communes. Le travail de synthèse a ensuite permis de faire émerger 153 préconisations orientées vers différentes politiques publiques touchant à 3 niveaux d'intervention. Le renforcement du niveau d'intervention des collectivités et ou de l'État, l'expérimentation ou l'habilitation et enfin un troisième volet relevant lui de l'évolution institutionnelle ou statutaire.
Sébastien Gilles. Et en Guyane, l'Observatoire de l'érosion côtière célèbre ses 10 ans. L'occasion pour les élus de se retrouver à Cayenne pour un partage d'expériences. Certaines municipalités de l'ouest du territoire notamment envisagent de déménager leur population. Reportage Zo Dubesset.
À Walayalimapo, la mairie a par exemple dû construire une nouvelle route pour remplacer l'ancienne, trop souvent submergée. Elle réfléchit au réensablement de sa plage et a modifié les documents administratifs de la commune pour anticiper le déménagement des 300 habitants de Yalimapo. Tiffany Ariwanari, première adjointe de la commune, témoigne.
Le pire pour nous du scénario, ce serait de déplacer les habitants de Yalimapo. On doit en tout cas essayer de balayer le plus de possibilités possibles face à un phénomène qu'on ne maîtrise malheureusement pas.
À Kourou, la municipalité a déjà décidé d'installer des épis en bois au large pour casser la houle et freiner l'érosion le temps de déplacer une partie de la population. Jean-Paul Malagan, directeur adjoint des services de la commune.
Dans un premier temps, on a estimé à 341 logements de tout type, mais sur des études qui ne prenaient pas encore il y a 3 ans. Le simple fait de monter l'eau que depuis on a, il y a fort à parier qu'on soit plutôt sur du 500 logements impactés.
Les collectivités font aussi face à de nombreux freins financiers. Ces mesures de protection et d'adaptation se chiffrant en centaines de milliers d'euros, voire en millions pour les relogements.
Un reportage, Guyane la première, Enzo Dubesset. À demain, Anne.
Merci et à demain. On vous retrouvera donc pour l'actualité des Outre-mer. En attendant, on va se quitter en musique avec Célia Kameni et son hommage à la chanteuse Françoise Hardy.
Et de l'aventure, quand le attente, l'amour, c'est long et c'est court, ça dure toujours, on s'en souvient. On se dit qu'à 20 ans, on a le roi du monde, et qu'éternellement, il y aura dans nos yeux tout le ciel bleu. C'est le temps de l'amour.
Eh oui, Popori Show et CUTFM remercient chaleureusement le Comité international pour la promotion du créole et de l'alphabétisation, KEPKA, et le Mois du créole à Montréal pour les deux prix de reconnaissance dans le cadre de nos émissions spéciales Mois du créole édition 2022. Et oui, nous sommes extrêmement honorés de recevoir cette reconnaissance. Le KEPKA, un organisme à but non lucratif légalement constitué, qui a vu le jour à Montréal le 13 avril 1997, a pour mission de défendre et de mettre en valeur les langues et les cultures créoles par les arts, l'éducation populaire, le partage et la sensibilisation. Il contribue au rayonnement et à l'enrichissement des patrimoines culturels du Québec et du Canada par la diffusion des littératures créoles et africaines. Il aide les jeunes créolophones canadiens et québécois à découvrir leurs identités. Il crée le pont entre les créolophones du Québec, des Caraïbes, de l'océan Indien et des diasporas. Il développe des échanges entre les auteurs, les artistes, les chercheurs et les amis de la langue créole par l'organisation de multiples activités hautement culturelles et artistiques. Toute l'équipe de la radio dit haut et fort, merci en pile à KEPKA et le Mois du créole à Montréal. Pour tout savoir sur ces prix de reconnaissance, popourichaud.com. Au mois d'octobre, vivez au rythme des cultures créoles du monde sur CUT 89,5 FM Toronto.
Bienvenue, ladies and gentlemen, welcome. La fête de la musique, c'est à Erin que ça se passe, à la place d'Erin. Concerts, DJs, food truck, animation, un rendez-vous incontournable. Une organisation de la commune de Pec, Culture Pec et Néo Radio. Plus d'infos sur neoradio.be.
Bonjour, je m'appelle Jacques Lang. Nous allons parler de l'histoire de la fête de la musique. Pour trouver la raison, il faut se reporter, pardon pour les plus jeunes, très loin dans le temps. C'était en 1981, François Mitterrand avait été élu président de la République. Il m'avait choisi comme ministre de la Culture et mon ambition était de faire bouger la vie artistique dans tous les domaines et tous azimuts, et en particulier la musique. La fête de la musique, c'était d'abord l'idée de mettre en évidence que toutes les musiques méritent d'être reconnues en égale dignité. D'ailleurs, on avait songé à l'appeler « fête des musiques » ou « fête de toutes les musiques ». La deuxième chose, c'est que nous voulions que les citoyens eux-mêmes soient acteurs et inventeurs d'un événement qui serait le leur. Ce n'était pas l'idée d'un festival imposé d'en haut, mais une idée lancée. L'appel à tous les musiciens amateurs professionnels de s'emparer de la rue pour faire ce qu'ils souhaitaient faire pour exprimer leur passion musicale par la voix, par un instrument de musique, par la danse. La troisième idée, c'était de choisir un jour qui soit propice à la fête, à la ferveur, à l'amitié, à l'amour, le 21 juin. Le 21 juin, c'est le jour de l'été. Et puis, en plus, la nuit la plus courte. Voilà trois raisons pour lesquelles j'ai imaginé cette fête de la musique. première année, c'était un peu timide. Mais on a senti un mouvement se créer. Et des amis artistes ont apporté leur contribution pour faciliter ce mouvement. Je pense à Jacques Higelin, qui par exemple avait loué un immense camion portant des instruments de musique, traversant la ville et invitant tous les amoureux de la musique à le rejoindre. Et on s'est dit, pourquoi ne pas remettre ça une deuxième fois, puis une troisième fois, et ainsi de suite, jusqu'au jour où ce sont les gens eux-mêmes qui sont devenus, je dirais, les maîtres de l'événement. C'est entrer dans la tête, dans le cœur des gens. L'événement qui était d'abord français est devenu maintenant universel. Et là encore, petit à petit, en Europe d'abord, en Allemagne, en Italie, en Espagne, dans d'autres pays, puis aux États-Unis, en Chine, en Amérique latine, en Afrique, dans le nord de l'Europe, partout, la fête de la musique est devenue un moment particulier de la vie musicale et culturelle d'une ville, d'un quartier ou d'un pays. Cette fête de la musique, née sur les rivages de la Seine, est devenue aujourd'hui un événement universel. La fête de la musique se conjugue avec le mot diversité, puisque précisément la règle du jeu c'est « do it », pour parler français, là où vous êtes. Faites de la musique classique, faites de la musique baroque, faites de la musique inventée par vous, faites de la musique électronique, jouez un morceau de rap, ou faites une chorale. Donc la diversité fait partie de l'événement. C'est l'art de la rencontre, l'art du bénévolat, l'art de l'échange, sans chercher le lucre ou le profit. C'est ça. Et c'est donc, par conséquent, l'indépendance. J'ai été député de Boulogne-sur-Mer. Je suis arrivé dans cette ville. Visitant le port de Boulogne-sur-Mer, je tombe sur un marin-pêcheur qui me dit merci. Merci de quoi ? Merci, parce que grâce à vous, indirectement, j'ai découvert un instrument de musique qui est devenu mon instrument de musique, le piano. Car un jour, aussi 3 ans, l'orchestre symphonique de Lille, dirigé par Jean-Claude Galassu, est venu jouer gratuitement sur le port de Boulogne. Et pour moi, ça a été, m'a dit ce marin pêcheur, une révélation. Et je me suis mis à apprendre et à apprendre. Et maintenant, ça a complètement changé ma vie. Mon coup de cœur va à celui ou à celle que je ne connais pas. Mon coup de cœur, c'est une révélation. C'est à Paris que j'espère, sur le bord de la Seine, au coin d'une rue, sur une place, rencontrer le ou les musiciens qui me feront rêver. Wepa ! Ça, c'est la techno soukous. Ah oui, le Longomba, le propriétaire de tous les dossiers. Avec la participation de Jocelyne Berroa. Hey. Yo, Africa, 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 Africa,
non, lui.
Je m'appelle Coupé, Coupé, Bibamba.
Non, l'autre. Préparez-vous, car les bonnes choses ne durent jamais. Attention, le top des top revient en colère. Bon, mettez la main sous qu'il y a un chile. Bon, mettez la main à la chibaba. Bout de bout de Kayana. Bout de bout de mon bébé. Bout de bout de Kayana. Bout de bout de mon bébé. Bout de bout de Kayana. Come on, come on.
Supported community radio. CIUT 89.5 FM, celebrating 35 years as the sound of your city.
De 11h à 13h, Popourri Chaussures CUT 89.5 FM, Toronto. Toute la diversité de la francophonie sur votre fréquence. Eh oui, ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans que Sophie France Solidarité des Femmes et Familles Interconnectées Francophones du Niagara, un organisme communautaire à but non lucratif, planifie, développe, organise et réalise des projets qui répondent aux besoins réels de la communauté immigrante francophone du Niagara. Sophie France est aussi un festival annuel haut en couleur avec Festive Ben, un salon du livre, des ateliers, des projets ambitieux et novateurs. Sophie France, 15 ans déjà, ça se fête! De la culture, de l'art et du patrimoine pour, par et avec les immigrants et les jeunes francophones du Niagara et de Welland. Découvrez les projets de Sophie Franc en cliquant sur sophiefranc.org ou visitez notre site web popourichaud.com. Où que vous soyez, si vous songez un jour vous installer dans la région du Niagara, Sophie Franc vous accompagnera dans votre processus d'intégration en vous offrant des services ciblés dans le domaine social, économique, éducatif et culturel. Pour une intégration réussie, une seule adresse, sophiefranc.org. Sophie Franc, un organisme qui a déjà fait ses preuves. Ensemble, faisons le changement. Popourri Chaud, 35 ans déjà, fier partenaire de Sophie Franc. Lire, c'est se frotter à des personnages qu'on ne connaît pas, à des idées qu'on ne connaît pas, à des philosophies qui nous sont inconnues, à des mentalités qui nous sont étrangères. C'est ça lire, sinon vous restez dans votre petit monde. Bonjour et bienvenue à Popourri Chaud, votre magazine de la francophonie qui vous accompagne depuis plus de 37 ans. L'ingénieur du son, DJ Devera, animation, production, Eric Kader. Pour écouter nos émissions, une seule adresse, popourichaud.com. Popourri Chaud, un magazine culturel 100% financé par les auditeurs et les étudiants de l'Université de Toronto depuis 37 ans. Une émission exceptionnelle et en direct à mettant la langue française en avant-plan. Une émission réalisée en partenariat avec France Inter, la librairie francophone, RFI, France 24, TV5 Monde. Un immense merci à nos partenaires qui ont renouvelé leur partenariat. Ciné Franco, plus de 26 ans à nos côtés, qui nous présente le Toronto Jewish Film Festival. Et oui, 4 films au mois de juin à retrouver sur notre site web. Ben oui, un festival à ne pas manquer. Les podcasts Quoi de neuf à les cafés du Créfaux qui ne finissent pas de nous émerveiller. Les éditions Prise de parole qui vous proposent des idées cadeaux littéraires tout au long de l'année, mettant en vedette la riche diversité des écrivains de l'Ontario, de l'Acadie et du Canada. Sophie Franc, un organisme qui est au service des immigrants francophones de la région de Welland, du Niagara. Des activités physiques, musique, danse, cuisine, tout au long de l'année. La Société d'Histoire de Toronto, reconnue et applaudie pour ses conférences et visites guidées. History Tour, mon mettre en lumière l'histoire francophone de la ville de Toronto. Et du 28 mai au 2 juin, je vous invite, madame, monsieur, à soutenir l'unique émission en langue française sur CUT 89,5 FM. 37 ans de bénévolat et de passion. Contre vents et marées, nous sommes toujours fidèles au poste pour vous présenter des perspectives de cette francophonie plurielle du Canada et du monde. Et oui, si vous souhaitez être des nôtres en tant que partenaire ou membre de notre émission, veuillez nous écrire immédiatement à popourri@cut.fm, popourri@cut.fm, ou visitez le site web de la radio en faisant un don en toute sécurité sur www.cut.fm.
Le livre du jour. Chaque semaine, notre partenaire, la maison d'édition Prise de parole, nous présente l'actualité et les nouveautés littéraires avec pour seul mot d'ordre, le plaisir. Découvrez les écrivains de la diversité francophone de l'Ontario et du Canada. Chaque dimanche, Popourri Show et prisedeparole.ca nous donnent envie de déguster des histoires, dévorer des pages, savourer les mots enfin gourmets de la littérature. Retrouvez sans attendre toutes les entrevues des autrices et des auteurs sur popourrichow.com ou découvrez tout simplement les nouveautés littéraires du moment sur prisedeparole.ca.
Informer et sensibiliser les populations quant aux réalités des personnes de la diversité sexuelle et de genre. C'est notre mission tout au long du mois de juin sur CUT 89,5 FM dans le cadre du mois des fiertés. Préparez vos chaussures et repassez le drapeau arc-en-ciel. La saison des marches des fiertés LGBT+ est de retour. Pour en savoir plus sur les activités de Pride Toronto ou de Franco Queer, suivez-nous sur Facebook ou popourrichot.com. Be yourself, sois toi-même. Et c'est la thématique de Pride Toronto cette année. Bon mois des fiertés, où que vous soyez dans le monde. L'Afrique, quel droit pour les homosexuels? Les droits des homosexuels progressent-ils sur le continent africain? En 2023, 27 pays réprimandent et condamnent l'homosexualité. 4 pays condamnent encore à la peine de mort les homosexuels pour des relations sexuelles entre personnes du même sexe. 40 pays sur le continent n'offrent pas de protection juridique pour les personnes LGBT. Les avancées contre les persécutions se font rares et restent fragiles. Dans un climat qui ne cesse de se détériorer pour les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres en Afrique, le président burundais a jeté de l'huile sur le feu. S'adressant à des journalistes, il a déclaré récemment « Si vous voulez attirer la malédiction sur un pays, il faut permettre à l'homosexualité. Et on devrait les mettre dans un stade et les lapider avec des pierres, parce que c'est ce qu'elles méritent. » La réaction ne s'est fait pas attendre. Et oui, un militant LGBT au Burundi qui a demandé à rester anonyme a raconté à Human Rights Watch. Très vite, sur les réseaux sociaux, on a vu apparaître un millier de commentaires de partisans du président qui ont rivalisé avec des menaces et d'appels au meurtre. Tous plus atroces les uns que les autres. Au Sénégal, 2 personnes interpellées pour des attaques contre le Premier ministre sur l'homosexualité. Cela s'est passé le mois dernier. Un activiste et un prêcheur ont été placés en garde à vue à Dakar après avoir attaqué le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko et ses récents propos sur l'homosexualité. Au Ghana, des voix influentes s'élèvent contre un projet de loi anti-LGBT. Des personnalités éminentes de par le monde exhortent le président à opposer son veto à ce projet législatif néfaste. Le 28 février dernier, le Parlement du Ghana a adopté ce projet de loi draconien qui durcit les sanctions pénales pour les relations homosexuelles consensuelles et criminalise les actions d'individus et d'organisations qui défendent les droits des personnes LGBT. En outre, le projet de loi criminalise le fait de ne pas signaler une personne LGBT aux autorités et de dénoncer toute personne utilisant sa plateforme de médias sociaux pour produire, publier ou diffuser du contenu faisant la promotion d'activités interdites par le projet de loi. Les peines de prison peuvent aller jusqu'à 10 ans de prison. Une loi restreignant drastiquement les droits de la communauté LGBT+, et de ceux qui les défendent au Ghana. Je vous invite, madame, monsieur, à écouter le témoignage émouvant d'une femme transgenre au Ghana.
Derrière ces murs d'un immeuble de Berlin se cache une survivante. Angèle Maxime est une activiste ghanéenne et femme transgenre. Elle a dû fuir son pays par peur d'y perdre la vie. Le 28 février, Accra a durci sa loi contre les personnes de la communauté LGBT. Tout individu s'identifiant comme membre de ce groupe risque jusqu'à 3 ans de prison. Alors Angèle Maxime s'inquiète pour la sécurité de ses amis restés au Ghana.
Ils ont tous peur. La plupart d'entre eux, s'ils avaient eu la chance de quitter le pays et de demander l'asile quelque part, ils l'auraient fait. Mais pour le moment, cette possibilité n'existe pas. Donc tout le monde vit, se cache. Ils sont tous terrifiés, tout le monde a peur.
Avec ce nouveau texte législatif, les personnes issues de la communauté LGBT encourent également jusqu'à 5 ans de prison si elles mènent des actions considérées comme de la promotion, du parrainage ou du soutien délibéré d'activités LGBT et jusqu'à 10 ans si la campagne s'adresse à des enfants. Le texte n'entrera en vigueur qu'après sa ratification par le président Nana Akufo-Addo. Il n'a pas encore fait savoir sa décision.
Indépendamment du fait qu'il soit signé par le président ou non, le fait qu'il ait été rendu public signifie que quiconque est suffisamment enhardi pour commettre des actes de violence contre quelqu'un qu'il soupçonne d'être homosexuel le fera. Et il y aura du sang sur les mains du gouvernement ghanéen et du président.
Au Ghana, les relations homosexuelles étaient déjà passibles de 3 ans de prison, alors ce texte législatif inquiète Amnesty International.
Lorsque vous regardez le projet de loi du Ghana, il viole les droits fondamentaux que le Ghana protège en vertu de la Constitution ainsi que du droit international des droits de l'homme. Les gens ne pourront pas s'exprimer librement et ils pourraient être persécutés et ciblés pour avoir parlé librement.
Ces dernières années en Afrique, plusieurs États ont voté des lois durcissant la répression anti-gay. 31 pays sur 54 disposent de législations interdisant ou réprimant l'homosexualité.
Dans ma personnalité, il y a le côté très chaleureux. Je pense que j'ai été capable d'installer ce côté non prétentieux de la drag queen. Souvent, on va penser que c'est des inaccessibles. C'est... Je suis resté simple, finalement, dans le sens que, pas simplette, mais grounded.
Ouais, vous aussi un peu simplette.
Oui, il faut faire rire les gens quelque part. Puis souvent, même des fois, il y a des drags qui me le reprochent. T'es bonasse un petit peu, tu t'en laisses passer une coupe. Elle, je l'aurais remis à sa place. Mais je pense... Ça ressemble à ça, là. Le côté un petit peu moment.
De ce côté-là, dans les loges, à ton cabaret, avec les dragues aussi, tu vas toujours les voir quand c'est la première fois qu'ils sont là.
C'est ça.
Puis
je le fais encore. J'avais des petites nouvelles en fin de semaine. Puis tout est beau. Puis j'aime le monde. Et toi, l'aspect de ta personnalité dont tu es le plus fier?
Je dirais que c'est ma persévérance, de façon générale. Autant la personne derrière que le personnage, là. Je me suis fait dire non souvent, oui. Puis ça m'a toujours bien servi. Par contre, ça vient aussi avec des maux de tête, des moments de découragement, de la fatigue. Mais ça fait qu'aujourd'hui, ben, il y a plein de belles choses qui arrivent. C'est parce que je n'ai pas lâché.
Si tu n'avais pas mis ton pied en avant, tu ne serais pas là.
C'est ça.
Combien de fois je t'ai dit « fonce, Manon ». Fonce.
À foncer. Ne péter des portes à grand coup de talon.
T'as même pété à la porte de ma loge.
Je m'en rappelle plus pourquoi, par exemple.
Mais je pense que t'avais pas la clé puis tu voulais rentrer absolument dans ta loge.
Édition spéciale dans le cadre du Mois des Fiertés en partenariat avec francofierté.ca/2024. CUTFM, l'émission qui vous mène jusqu'au bout du monde. Et merci encore à tous ceux et celles qui continuent à soutenir notre mission sur CUT 89,5 FM, 37 ans déjà. Et oui, nous venons d'entendre une réunion au sommet entre la légende montréalaise de la drague, Mado Lamotte, et sa révolutionnaire héritière, Rita Baga. Et oui, Mado Lamotte, d'ailleurs, qui est déjà venue à Toronto, hein, elle est très très populaire partout au Canada. Et oui, elles sont donc plus en plus populaires, les drag queens. Elles sont nombreuses à Toronto et à Montréal ces jours-ci pour célébrer le festival Pride Toronto et Fierté Montréal. Leur popularité dépasse désormais les frontières de la communauté LGBT. D'ailleurs, je vais vous laisser avec un petit reportage de Radio-Canada sur les drag queens. Et puis, un montage grâce à de DJ Dovera sur les meilleures musiques du mois des fiertés. Mais aussi peut-être avec une couleur du 21 juin, c'est la fête de la musique. Justement, merci à DJ Devera, Franco Fierté 2024. Un immense merci à tous les nouveaux membres de la radio, les nouveaux auditeurs. Et nous avons des petits cadeaux, des t-shirts, mais aussi des billets de bistrot, de restaurant pour vous. Alors, écrivez-moi immédiatement ceux et celles qui ont déjà fait un don. popourri@cut.fm. Je vous souhaite un bon dimanche et une merveilleuse semaine. Que la force soit avec vous. À dimanche prochain. Ciao, ciao, ciao.
Longtemps perçus comme des créatures étranges, les drag queens sont devenus en quelques années un phénomène grand public.
En juillet, ça fait 31 ans que j'exerçais ce métier-là. Et oui, j'ai vu plusieurs évolutions parce que ça bouge beaucoup. Maintenant, on fait des spectacles n'importe où. Dans une cour, chez une famille, à Laval, en Beauce, au Saguenay, ça... Partout, on est partout.
Le succès de l'émission RuPaul Drag Race, une télé-réalité américaine qui en est à sa 11e saison, a contribué à la démocratisation de ce phénomène.
Au début, c'était dans la communauté LGBT. RuPaul Drag Race, c'est comme une partie du Canadien au Centre Bell. Les bars sont pleins, les gens hurlent, c'est une euphorie totale. Les gens ont leur drag queen préférée. Mais maintenant, on voit que ça s'étend à un très large public d'adolescents. C'est beaucoup de gens hétérosexuels qui vont venir voir cette soirée-là.
Que ce soit pour raconter des histoires aux enfants, dans les bars, ou encore des drag queens atteintes de trisomie 21, elles sont sur tous les fronts et le public est au rendez-vous.
C'est un très bon divertissement. C'est des bons shows, là. Puis c'est des vrais artistes.
Moi, je supporte mon garçon qui est une drag queen, Damon La Slave. Puis j'ai toujours supporté les drag queens tout le long de leur carrière. J'adore ça, RuPaul, ainsi de suite.
Je trouve ça intéressant parce que il faut s'ouvrir les yeux sur le fait que des genres, et non pas deux genres, et je trouve ça intéressant de pouvoir vivre un petit peu des petits moments avec eux autres.
Il existe une multitude de styles de drag queen. Leur point commun, des looks colorés et des noms accrocheurs.
Damon, la slave.
Tissy Sinatra.
Oh my God.
Hercules.
Mirage.
Jojo Bones.
Viva Lai.
Chuchun.
Viola Von Venom.
Et pour certains, c'est devenu un vrai métier.
C'est sûr qu'il y a un petit réseau d'artistes qui réussissent à vivre de leur art, comme dans n'importe quelle autre discipline au Québec d'ailleurs. Je suis un des chanceux qui peut vivre de ça, mais je peux dire aussi que j'ai créé ma chance.
Il y aura encore d'autres spectacles de drag prévus d'ici la fin de diversité, dont Drag Superstar qui met en vedette les participants de l'émission RuPaul Drag Race. Et pour les plus grands fans, il sera même possible de les rencontrer pour une séance d'autographe à condition d'être prêt de débourser les 300 $ que coûte le billet VIP. Ici Nadia Alexandre Chartier, Radio-Canada, Montréal.